Thank you. Isn't that magic?
Et c'est magique notre système hein, de lever la main. Alors, on a une équipe qui cherche à gagner le prix Grammy pour le meilleur sketch.
Come on up and do your sketch.
Allez, faites votre sketch.
Hello.
Allô?
Come on. Round of applause.
Une ronde d'applaudissements.
They can just hold the microphones. Do they have microphones they can just hold? You have one mic? Okay. Do you have a mic?
Vous avez un micro?
Okay. Hey, wing it, trust it, it's gonna work.
Allez, c'est de l'improvisation, ça va marcher, faites confiance. Alors, caméra, ça roule. Bon, c'était inaudible, il n'y avait pas de micro. Ou le micro ne marchait pas.
Ok.
Bon. Il est 8 heures du matin. Le score est de 4,5 pour un score de patient. Bon, notre patient... Voilà, il faut parler... Notre patient est Mme D. Elle est ici, elle a une pneumonie. Elle a une lobotomie. Elle prend du Coumadin. Parce que son IR, c'est 4,5. Elle a des ecchymoses, beaucoup, beaucoup de bleu, d'anciens sites de ponction et donc d'anciennes blessures, si on veut, meurtrissures. On la retrouve avec une ecchymose saignante. Alors, on l'explique. Que devrions-nous faire? Il dit, je m'en fiche. Alors, on est coincé. On va surveiller ses bras et on verra bien ce qui va se passer.
And then at 9:30, we go back and...
À 9h30, on retourne, docteur Couder, yes, ça saigne beaucoup. Bon, je vais lire tout ça, là, puis aller voir le aller voir son tableau personnel, et puis je vais écrire un ordre, et aller voir son petit tableau personnel. Oui, mais le bras, c'est sanguignolant. Ben, allez voir le tableau, allez voir ses informations personnelles que j'ai inscrites dans son dossier. C'est des vitamines K, 5 mg. Docteur K, 5 mg, ça suffit selon vous? Bon, il n'a pas de réponse. Il reste silencieux. Donc, le bras saigne à travers deux bandages. On n'arrête pas de l'encercler, de le repenser avec le 5 mg de vitamine K. On continue et on dit, bon, est-ce qu'on devrait mettre un bandage de compression sur son bras? Avez-vous vu mes indications sur son dossier, sur son tableau? Oui, et j'ai donné le vitamine K. Est-ce que maintenant je peux demander de mettre un bandage de compression? Qu'est-ce que ça dit? Fais ce qui est écrit sur le tableau.
Thank you so much. Thank you. Wow.
Wow.
I wish we were making all these up.
Ce serait bien qu'on les invente, ces exemples.
But what did you notice in that?
Qu'avez-vous remarqué? Il y a un sentiment profond de d'une détresse morale, hein? C'est ça que c'est. C'est une détresse. Et un sentiment d'impuissance. Et qui vient de où? Comment ces liens avec ces médecins, qui sont les liens les plus étroits avec nos partenaires les plus importants, là, comment est-ce qu'on en est venu à ça? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi ça m'a intéressé? Pourquoi j'ai commencé à étudier ça? Un jour, on faisait une petite fête pour dire au revoir à Brenda. J'étais en train de lui parler de façon animée et Dr. Newton est venu dans le corridor et son visage a changé complètement. J'ai dit, Brenda, mais qu'est-ce qu'il y a donc? Elle a dit rien. J'ai dit, Brenda, mais enfin, explique-moi, qu'est-ce que t'as? Et ben, j'ai jamais dit ça à personne. Ben, est-ce que vous pouvez me le dire maintenant? Vous quittez, là? Il y a 4 ans, c'était le tour de service du matin, 7 heures du matin. Il est rentré, j'allais aller dans ma chambre, il a dit, Brenda, est-ce que tu peux m'aider? Et c'était pas mon patient, mais j'ai dit, oui, Dr. Newton, pas de problème. Et j'ai bien vu pourquoi il avait besoin d'aide dans la chambre en question. Il fallait que je lève la jambe, il a fallu enlever la panse sur la hanche, c'était très profond, il a fallu refaire le pansement. et à la fin, il a pris une bouteille d'hydrogène de peroxyde, il a pris la moitié de la bouteille et il l'a mis directement dans la blessure du patient. Et je fais partie du comité de soins de la peau. J'étais crispée et je me suis dit, mon Dieu, quand j'ai quitté la salle, j'ai dit au médecin, docteur, je fais partie du comité de soins de la peau. Je représente le comité sur cet étage. Beaucoup de recherches disent que ça, c'est pas la meilleure pratique. C'est parce qu'on tue les cellules saines. Il dit, très bien, va chercher la recherche d'abord. Wow, super. Je suis restée debout jusqu'à minuit. J'ai trouvé les 3 revues, les meilleures de plus haute qualité. Je les ai mis dans une enveloppe. Et le lendemain matin, j'ai dit, Dr. Newton, voici les renseignements dont vous m'avez demandé. Et je me suis dit, c'est une occasion pour moi d'améliorer la pratique. Il a pris le dossier comme ça, il l'a placé comme ça, de façon nonchalante sur le bureau. Brenda, pouvez-vous m'aider dans la chambre encore une fois? Je l'ai resuivi dans la chambre en question. Il a enlevé le pansement encore une fois de la blessure. Mais quand il est arrivé, au moment où il a regardé la bouteille de peroxyde, il a pris une bouteille qui n'était pas encore ouverte. Une pleine bouteille de peroxyde d'hydrogène. Et il a vidé la moitié dans la blessure et il m'a regardé droit dans les yeux. Et il a donc utilisé l'autre moitié, exactement au même endroit. Vidé la bouteille au complet. Je l'ai évité toutes ces années. Je le vois dans le corridor, je me sauve. Lorsque je vois qu'il va vers ses patients, je me cache, je ne communique pas, les autres appellent. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Le lendemain, je suis allée suivre un programme de maîtrise. Et le médecin a fait circuler un bout de papier dans la classe. Donc, c'était un devoir qu'il fallait faire. En haut, ça disait, que sait-on sur... Et là, j'ai mis, qu'est-ce qu'on sait sur les rapports entre infirmiers et médecins? Parce que je voulais mieux comprendre. Parce que moi, je suis rentrée dans la profession tard. J'avais 39 ans lorsque j'ai eu mon diplôme de l'école des soins infirmiers. Mais lorsque je suis arrivée à l'étage pour mon tout premier travail, il y a des médecins avec qui j'adorais travailler. Et c'était formidable. Et c'était la majorité, je dois dire. Et il y en avait quelques-uns où tout le monde vraiment n'aimait vraiment pas ça. C'était toujours avec antipathie. Et notre ordre dit une température de 102 degrés post-opératoire, sinon il faut appeler le médecin. Mais chaque fois que quelqu'un prenait le téléphone et on appelait Dr. K, il raccrochait avec une telle agression que les gens sursautaient. J'ai attendu ma chance comme une panthère prête à bondir. Et j'ai fait preuve d'une très grande patience. Un jour, il m'a dit, toi, j'étais même pas infirmière et j'avais certainement pas de nom après 6 mois, toi. Me demandant de venir le voir. Et c'était trop tentant, c'était vraiment trop. Il mesurait quoi, 6 pieds 5, 6? Et il était vraiment, il trônait par-dessus moi. Dès qu'il a ouvert la bouche, j'ai dit, ah, un instant, s'il vous plaît. Et je me suis mis debout sur la chaise. Et j'ai dit, pardon, que vouliez-vous? Comment puis-je vous aider? Il s'est retourné et il est parti. Et il a fait un rapport au directeur. Et puis, finalement, j'ai été placée en poste de direction après 6 mois après avoir obtenu mon diplôme. Mais dans ma tête, je me suis dit, c'est une question de personnalité, comme des infirmiers, infirmières. Il y a des infirmiers avec qui j'aime bien travailler, puis d'autres qui sont en syndrome prémenstruel ou en syndrome de personnalité sensible. Alors, je savais avec qui j'aimerais travailler, avec qui je ne savais pas jamais pas travailler. Voilà, c'était tout, fin de l'histoire. Pas plus compliqué. On va passer au prochain cliché. Bon, d'abord, je me suis penchée sur la recherche. Je suis allée à la bibliothèque et j'ai pris tous les articles qui avaient été rédigés jusqu'en 2005 sur les rapports entre les infirmiers et les médecins. Et ce que j'ai découvert, c'est que ces rapports ont une incidence dans ces domaines. Détresse morale, environnement de travail, sécurité des patients, rétention, recrutement et satisfaction au travail. J'ai résumé tout ça. Puis je me disais, j'avais pas besoin de lire tout ça. On venait de me nommer gestionnaire en orthopédie et aussi sur la moelle épinière. J'avais des histoires pour chacune de ces exemples. Hier, Nancy, une de nos infirmières, parlait à un neurologue en consultation. Et il venait sur l'étage pour visiter un patient. Elle était infirmière de nuit. Elle est allée le voir parce que elle a penché sur son épaule et elle voyait qu'elle allait libérer ce patient. Et elle a dit, excusez-moi, là, monsieur le médecin. Il n'a pas réagi. Il a dit, pardon, docteur. Finalement, il s'est tourné avec les yeux vers le haut, là. Et elle a dit, je voulais tout simplement vous indiquer que le patient que vous libérez avait pas mal de sang dans son urine hier soir. Et c'est la façon qu'il a fait, là, de tourner sa tête. Et il a dit, et alors? Je l'ai vu s'esquiver. Trois fois, il l'a croisé dans le corridor. Il ne lui a pas accordé une parole. Un matin, trois semaines plus tard, je suis arrivée sur l'unité. Je fais mes rondes. Et je fais mes rondes sur les deux étages. Et ce jeune, ce vieux monsieur, ce petit vieux qui tournait sa tête à droite, à gauche, à droite, à gauche, je peux vous aider? Non, non, on a besoin du médecin. Il va être là dans quelques instants. Mais vous avez besoin de quoi? J'ai besoin de mon médecin. Mais voulez-vous me dire ce qui est le problème? Ma femme a mal. Ça fait depuis 4 heures du matin, ses douleurs sont de plus en plus intensives. Est-ce que l'infirmière le sait? Il a dit, oui, elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Je vais aller trouver votre infirmière et je vous reviens. Je suis gestionnaire de l'unité. J'ai trouvé Shelley proche de la machine Pexis. J'ai dit, Shelley, je sors de la chambre 62. Son mari dit que sa femme souffre depuis 4 heures du matin et au niveau de 9-10 sur l'échelle de 0-10. Et elle m'a regardé. Elle a dit, mais j'avais tout fait ce que je pouvais faire. J'ai dit, quoi? J'ai donné Phenergan, Benadryl. J'ai vraiment tout essayé de faire. Mais vous n'avez pas appelé le médecin? D'un seul coup, elle a rivé son regard sur le plancher et elle a dit, savez-vous qu'est-ce qu'il fait quand on l'appelle au milieu de la nuit et ensuite le lendemain? J'essayais de me rendre à 7 heures du matin. Le recrutement et la rétention. Dagmar, toute nouvelle infirmière, elle venait de finir son séance d'augmentation de 3 mois. Elle était formidable. J'ai remarqué qu'un des médecins plus jeunes qui était parmi nous que, je dirais, depuis 9 mois, il avait 7 patients. Et ce jour-là. Et je me dis, quelle occasion pour lui d'établir des liens avec Dagmar? Je lui ai demandé, est-ce que ça vous dérangeait si Dagmar vous suivait aujourd'hui, faisait vous rendre avec vous pour voir vos patients et qu'elle en sache un peu plus sur ce que vous faites, les soins, ce que vous remarquez, ce sur quoi vous portez attention? Et il a dit oui, bien sûr, comme ça, sans réfléchir davantage. Je l'ai présenté à Dagmar, je suis retournée dans mon bureau. 10 minutes plus tard, on frappe à ma porte. J'ouvre la porte et c'est Dagmar. Ne me demande jamais de faire ça, encore une fois. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, dans la première chambre, il m'a ignoré complètement. J'aurais pu être le mur. Il ne m'a jamais parlé, ni regardé, ni quoi que ce soit. Et je suis restée debout comme une imbécile pendant qu'il faisait ses rondes. Deuxième chambre, la famille y était. À mi-chemin, il enlève le pansement sur la blessure de la hanche et dit devant la famille, « Est-ce que vous avez besoin de quelque chose, là? » Elle dit, « Moi, je ne veux plus faire ça. » etc. Alors, en tant que nouveau gestionnaire d'une nouvelle unité, évidemment, ça m'a préoccupé. Je suis immédiatement allée voir les médecins et j'ai dit, durant la ronde, comment sont vos rapports avec les infirmiers et infirmières? C'est source de préoccupation pour moi. Et ils ont dit, formidable. Vraiment? Ah oui, tout va bien. Tous, les 36, il y en avait peut-être 20 à la réunion. Vous pensez que c'est formidable? Oui. OK. Ensuite, je suis allée à mon autre réunion de personnel. La salle était remplie de 20 infirmières à cette réunion. Et j'ai dit, ah, en se disant pas ça, j'ai une question pour vous. Comment sont vos rapports avec vos médecins orthopédiques? Et ils ont dit, super! Tout va bien. On les aime. Vraiment, une déconnexion, celle dont Sean a parlé, Sacha en a parlé. Eh ben, c'était là, c'était flagrant, un exemple parfait. Alors, en tant que leader parmi les infirmières, que devrais-je faire quand mes médecins et mes infirmiers et infirmières disent que les rapports sont formidables? Quel défi de taille! Alors, j'ai commencé en me posant la question suivante. D'où venait ce conflit? Si on regarde l'histoire de la profession, évidemment, les infirmiers et infirmières venaient de la classe moyenne, les médecins de la haute classe. Évidemment, il y a les sexes. Beaucoup de médecins étaient des hommes et les infirmières étaient surtout des femmes. Et à l'époque, au sein de la société, un homme avait un rôle plus important qu'une femme, n'est-ce pas? Ça aussi, c'était clair à l'époque. La nature, donc, de la profession. Les infirmières ont une approche holistique, le soin, l'histoire de la personne dont Sacha a parlé, toute l'histoire, l'histoire au complet. Les médecins, eux, veulent guérir, améliorer. Le cerveau gauche, objectif. Leur éducation est distincte, comme on l'a dit plus tôt, rien à voir, aucune comparaison. Et Sacha, vous avez déjà parlé du jeu médecin-infirmier, et je vais vous le démontrer. Comment va ce jeu? Il va comme suit. Je suis une infirmière orthopédique. Je regarde mon patient et je vois que elle a un niveau à 25, deuxième jour après la chirurgie. Le médecin arrive, il prend son dossier, il le prend, il écrit les ordres de la journée et il s'organise pour partir. Et comme vous le savez, vous prenez ce dossier le plus rapidement possible dès qu'il quitte la chambre. Vous prenez le dossier et vous voyez qui n'a pas demandé un autre test comme celui qu'il a déjà demandé. Puis je me dis, mais mon Dieu, ça va peut-être avoir des conséquences. Et je dis, excusez-moi, médecin. Il dit, oui. Est-ce que vous ne vouliez pas demander un autre test parce que hier les résultats n'étaient qu'à 25, un hematocrit? Oui, oui, ah oui, c'est ça que je voulais faire. Oui, merci. Et voilà, tous les jours, c'est ce qu'on vit. Est-ce qu'on voit ce qu'on fait aujourd'hui? Non, mais on voit ce qu'on a fait il y a 50 ans. Ça, c'est facile. J'étais à une fête dans les soins infirmiers, donc on soulignait l'importance d'une infirmière qui avait travaillé 47 ans, je pense, à titre d'infirmière. Et cet après-midi, je suis allée voir l'auditorium donc à l'hôpital et je lui ai dit, dites-moi votre premier souvenir de rapport avec ou entre infirmiers et médecins. Et elle m'a regardée, elle a dit,
je me souviens parce que j'étais tellement bien préparée le premier jour. En fait, j'étais très méthodique, je me suis assurée d'avoir tout ce que j'avais. Mais c'était passé. Dès que je suis arrivée sur l'étage, le médecin est arrivé sur l'unité et en fait, il avait une cigarette à la bouche et j'avais oublié mes allumettes. Mais j'ai jamais oublié ça parce qu'il m'a regardé avec dégoût, avec mépris. Il a dit, bon, ben d'accord, avez-vous une allumette? Du feu, s'il vous plaît. Alors, je lui ai dit, qu'en est-il de l'oxygène? Elle a dit, de l'oxygène? On n'a jamais d'oxygène sur l'étage. Ils ont de l'oxygène seulement aux soins palliatifs, aux soins intensifs. Ça, c'est il y a 50 ans. Qu'est-ce qui se passait il y a 40 ans? Qui a été infirmière pendant 40 ans parmi vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui se passait il y a 40 ans? On vous disait de rester un pas derrière le médecin et de mettre vos mains derrière le dos et de rester là sans bouger. Peu importe si le médecin avait besoin d'une chaise. Lorsqu'il entrait dans la pièce, vous deviez vous lever. Bon, ça, les gens font ça pour des rois, pas pour des médecins. C'est un peu comme la royauté. Lorsque vous arrivez, donc, dans la salle d'audience, vous devez vous lever, vous, l'auditoire, ou bien le pape, même chose. Alors, il y a 30 ans, qu'est-ce qu'on faisait? Et aux États-Unis, avez-vous besoin d'un café ou d'un bain, docteur? Il y a 20 ans, en fait, ils étaient venus trop gros, alors ils prenaient qu'un café. Il y a 10 ans, qu'est-ce qu'on faisait avec les médecins il y a 10 ans? Comment étaient nos relations avec eux? Vous étiez vous-même. Et lorsque... Bon, alors, là... Et qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? La chose la plus difficile à faire. On continue à les appeler après les heures. Et on commence la conversation par les mots. J'ai dit à une infirmière, excuse-moi, mais pourquoi est-ce que tu as commencé cette phrase en transmettant, en fait, des informations cliniques cruciales avec une excuse? Et elle m'a dit, tu sais pas à qui je parle? C'est le gars le plus puissant autour d'ici. J'ai essayé, en fait, d'être humilié. Mais qu'est-ce qu'on fait d'autre à l'heure actuelle? Parce que vous venez de le voir dans les trois sketchs qu'on vous a présentés. On est silencieux lorsqu'on sait qu'on devrait parler. Et lorsqu'on n'obtient pas ce qu'on veut, ce dont on a besoin et ce que l'on sait, on ne se sent pas habilité à parler, à dire ce que l'on pense. Autre chose? Qu'est-ce qu'on fait? On ne se respecte pas. Bon, que je puisse écrire une prescription pour un médecin ou pas, ben ça dépend de l'heure du jour. Parce que si je l'écris à 2 heures du matin, passer donc de la morphine à un autre médicament, à ce moment-là, le médecin va me remercier le matin venu. Ou si je l'appelle et que j'étais à l'unité d'orthopédie comme Karen pendant 15 ans et qu'un soir, elle a téléphoné, elle a dit, le patient, en fait, la peau lui gratte avec le PCA. Alors, pendant 15 ans, vous m'avez téléphoné, Karen, et je vous donne toujours la même réponse. Alors, donne-lui un autre médicament. Alors, finalement, la prochaine fois, qu'est-ce que Karen va faire? Elle écrit la prescription. Elle met simplement sa tête sur le bio en tant qu'infirmière. Elle a... qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, elle a mis sur le bio toute sa vocation. Et pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Et combien parmi nous ont fait la même chose qu'elle? Et font la même chose qu'elle à l'heure actuelle? Qu'est-ce que la recherche dit? En deux diapositives, je vais résumer tout pour vous qu'on puisse avancer. Parce qu'on peut avoir toutes les données du monde, ça va pas changer la relation entre les infirmières et les médecins. Parce que je suis allée à la bibliothèque, la seule chose dont je me suis rendu compte, c'est que la collaboration, c'est pas suffisant. Lorsque vous essayez de mettre dans une même pièce les infirmières et les médecins, il y a rien qui prouve que ça améliore leur relation. Améliorer les opportunités pour la communication, ça n'a pas donné de bons résultats non plus. Et il y a eu la fameuse étude, l'étude de soutien, où on a perdu des milliers de dollars après 2 ans de formation en communication. Et la seule façon pour le médecin d'obtenir l'information dont il avait besoin, c'était de parler à une infirmière. Alors, il n'y a eu aucune amélioration, zéro amélioration à ce moment-là, avec cette étude-là. Alors, finalement... Charles vous a parlé d'une étude, en fait, où on voit qu'une mauvaise relation, ça affecte le moral, la rétention, etc. Ça peut même entraîner la mort des patients. Les médecins et les infirmières ne s'entendent pas sur le problème. Et tous les les médecins, c'est vous les leaders. Alors, barrière au progrès, solution potentielle, etc. Moi, je me dis, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que deux groupes de personnes peuvent avoir des relations si abysmales lorsqu'ils travaillent ensemble tous les jours? Un jour, on a eu une querelle parce que j'avais un fils, en fait, de 15 ans, en fait, qui ne trouvait pas de travail pour l'été. Il s'attendait à ce que je l'entretienne tout l'été. Je lui ai dit, écoute, moi, d'où je venais, en fait, je lui ai dit, nous, il fallait qu'on travaille à l'âge de 15 ans. Bon, il est très têtu, on s'est battu. Alors, tous les amis l'appelaient, lui disaient, peux-tu venir au cinéma? Il est obligé de dire, non, j'ai pas d'argent. Et il est resté dans sa chambre sans sortir pendant presque 2 mois. En août, en fait, j'ai eu quelques jours de congé. Et il m'a demandé quelque chose, une voiture, je pense. Et j'ai perdu le contrôle. Je vous dis que j'ai fait une crise. J'avais besoin, en fait, d'un peu de congé, en fait, pendant quelques jours. Alors, moi, j'ai descendu 2 étages. Et tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu Tim qui était là. Et en fait, moi, je me suis dit, en 15 ans, j'ai jamais vu cet enfant pleurer comme ça. Pas une fois. Il était complètement perdu. Et il m'a dit, maman... Tout ce que je demande, c'est les choses fondamentales dont tous les enfants ont besoin. Alors, j'ai fait une vérification mentale. Alors, un toit sur la tête, la nourriture, les vêtements, etc. Bon, alors, le LSD, non, écoutez, non, pas le LSD, mais le DSL. DSL, ça, j'avais pas ça à l'esprit. DSL, en fait, Internet, DSL. Bon, en fait, moi, j'étais pas rendue là encore dans mon évolution. Bon, l'accès au câble de ma chambre, une allocation de $50 par semaine, une voiture, un ordinateur, juste les choses de base dont ont besoin tous les adolescents à cet âge-là. J'ai dit, Tim, il y a un problème. Alors, il n'y a rien de sur ta liste qui est sur la mienne. Et c'est comme ça que ça se passe avec les médecins. On pense pas la même chose parce que ces comportements ont été appris. Quelle est la chose la plus difficile à faire au monde? C'est de désapprendre un comportement, désapprendre tout ce qu'on a appris. En fait, mon fils aîné m'a soigné de tout ça. Moi, j'ai été élevée dans une famille catholique. Ma mère est l'une de 10 enfants. 3 de mes tantes sont des religieuses. Son idée, en fait, de vacances d'été, c'était de m'envoyer au couvent. Et ça n'est que jusqu'à l'âge de 13 ans que je me suis rendu compte, que les autres enfants faisaient pas ça. J'ai juré, quand j'étais petite, que je ne rendrais jamais mes enfants coupables. Parce que je me souviens, en fait, d'avoir prié, en fait. Moi, j'ai juré que je ne pourrais jamais prier mes enfants. Sean avait 11 ans, et un jour, j'ai dit quelque chose, et il s'est tourné vers moi, et il a dit, « D'accord, Alice. » My God! Il m'a appelé par mon prénom, par le nom de ma mère. J'ai dit, « Qu'est-ce que tu as dit? » J'ai dit, « OK, Alice. » Combien de fois pensez-vous que j'ai dû lui dire de ne plus jamais faire ça? En fait, il m'a rendu consciente de ceci. Donc, malgré nos meilleures intentions... Finalement, quand on vit le stress, on revient à nos comportements acquis, surtout quand on est dans des situations stressantes. Une autre chose qu'on sait, c'est que personne, peu importe à quel point ils sont intelligents, peuvent penser comme du monde lorsqu'ils sont bouleversés. Alors, les comportements ont une incidence sur notre capacité de penser avec clarté. En fait, je suis arrivée au département. Alors, il y a un problème... Il y a un problème, en fait, dans la chambre 54, il y avait après un accident de voiture, et il y avait la personne avait un problème, en fait, à la tête, et on l'a envoyé aux soins intensifs. Elle était incapable de dire quoi que ce soit. J'ai pris la machine PCH, je me suis rendu compte que c'était programmé pour de la morphine, et le patient venait de recevoir 30 mg de Dilaudid. À ce moment-là, il y a une nouvelle infirmière qui entre. Elle était là depuis un an. Elle me regarde et elle me dit... Et elle a éclaté en sanglots. Mais elle m'a demandé quelque chose. Comme par exemple, après 45 minutes de suivre le protocole, les procédures et tout... Elle dit, qu'est-ce que... T'as voulu dire lorsque t'es venu dans mon bureau parce que tu m'as remonté quelque chose et c'est un peu comme j'aurais pas dû les laisser me faire ça immédiatement. Elle a baissé la tête et bien sûr, chez les êtres humains, c'est une expression de honte lorsqu'on regarde le plancher. Et elle a dit, c'est bon, lorsque je suis arrivée dans mon car hier soir, il y avait un groupe d'infirmières, en fait, qui parlait autour de la station d'infirmières et dès que je suis arrivée, toutes les conversations se sont arrêtées. Je suis allée à la toilette. Et alors, j'ai entendu qu'une infirmière a dit « Elle ne fera jamais une bonne infirmière, n'est-ce pas ?» Et quelqu'un d'autre qui a dit « Oui, elle a vraiment pas ce qu'il faut pour être une bonne infirmière. » Et ensuite, elle a perdu le contrôle. Et elle a dit « J'ai laissé ces mots-là me détruire. C'était toute ma faute. Non, c'était pas ta faute. T'es une bonne infirmière. Tu es là depuis seulement un an sur notre étage. Il n'y a pas un livre au monde qui contient toute l'information pour une nouvelle infirmière. On s'attend pas d'un enfant à ce qu'il connaisse tout l'alphabet d'un coup. Lorsque vous arrivez sur un étage, vous devez apprendre beaucoup de choses. 6 semaines après, donc, je l'ai prise dans mon unité. Moi, c'était en neurologie, je n'étais pas inquiète d'elle, mais je me suis dit, comment est-ce que... en fait, ça a été, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes patients ne seront jamais en sécurité. Tant que les employés et mes employés ne sont pas en sécurité. C'est ça qui est important. Un article dans le Harvard Business Review qui avait rien à voir avec les soins de santé a écrit que la capacité de réaliser des tâches cognitives se trouve entravée par des comportements bien ancrés, même si ça se passe pas pour vous, même si ça se passe pour quelqu'un d'autre et que vous n'êtes qu'un témoin de ce comportement. Alors, on a parlé de déontologie. La déontologie nous dit ne faites pas de mal à qui que ce soit. Alors, le travail d'équipe est définitivement affecté par la façon dont nous nous sentons. C'est très important. Bon, les comportements affectent la mentalité, la sécurité des patients et le travail d'équipe. Autre chose, manque de communication, mauvaise communication, donc, est la cause d'erreur. Maintenant, c'est le leadership qui est la principale cause d'erreur. Pourquoi? Parce que ce sont les leaders qui sont responsables de mettre la table pour les changements culturels. En fait, le facteur humain vient en deuxième. Mais la communication joue un rôle essentiel. On sait que de 70 à 82 % de toutes les erreurs sont dues à la mauvaise communication. Moins de 50 % des infirmières ont dit qu'elles avaient d'excellentes relations entre elles. Moins de 25 % ont dit que leur relation était très bonne. Il y a aussi des parallèles. Ceci reflète la relation qu'elles ont avec l'infirmière en chef. Moins de 25 % de ces relations avec l'infirmière gestionnaire étaient bonnes aussi. Est-ce que c'est une coïncidence? Absolument pas. Et je ne vais pas décrire toute la recherche pour vous parce que les autres conférenciers l'ont fait ce matin. Qu'est-ce qu'on sait, en fait, des relations entre infirmières et médecins? En fait, moi, j'ai plus rien à dire. Tout a été dit ce matin. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations. On vous l'a dit ce matin. Il y a beaucoup de statistiques. Mais ce que nous avons, c'est qu'il y a une relation directe entre... il y a un comportement, il y a des bris de communication, en fait, entre les médecins et les infirmières elles-mêmes. Lorsque les primates sont l'un devant l'autre, lorsqu'il y a une querelle, en fait, entre les deux primates, en fait, finalement, et qu'il y en a un qui s'en va, c'est très mauvais. Alors, lorsque les médecins nous enlèvent notre pouvoir et une gestionnaire, tout le monde qui est en position de pouvoir, lorsque quelqu'un nous enlève notre pouvoir, et comment est-ce qu'on peut nous enlever notre pouvoir? Ils ne connaissent pas notre nom, parce qu'on est là depuis des mois ou des années même, ils ne nous appellent pas par notre nom. Dans quelle mesure est-ce que c'est important, les noms? Alors, dans un livre, Not Getting By, l'auteur est docteur et elle dit, en fait, par son rédacteur en chef, lui demande, est-ce que tu peux vivre sur le salaire minimum aux États-Unis? Mais il lui faut une page pour réaliser que pour la prochaine année, il y a personne qui va jamais l'appeler par son nom. Elle dit, et je cite, dans ce monde parallèle où mon père était un mineur de charbon, mon nom n'est jamais prononcé. Je suis Honey, je suis Blondinette, je suis la fille, je suis simplement une infirmière. Il y a quelqu'un d'autre qui récemment m'a dit que le fait d'être impersonnel, lorsque vous ne connaissez pas le nom de quelqu'un, que c'est simplement une infirmière, c'est comme quand vous conduisez une voiture, a-t-il dit. Avez-vous jamais conduit une voiture et vous êtes montré un peu plus agressif pour doubler parce que vous étiez pressé? Jamais vous regardez la personne que vous dépassez dans les yeux. Vous vous tournez pas, non? Parce que si vous le faites, vous feriez une grosse erreur. Vous ne feriez pas ça si c'était votre ami. Et si vous connaissiez le nom de la personne qui est dans la voiture, eh bien, vous auriez pas ce comportement-là. Vous l'auriez pas doublé. Alors, c'est facile d'avoir des comportements abusifs lorsqu'on dépersonnalise. Alors, qu'est-ce qu'on entend de la salle d'urgence? Bon. Il y a une étude qui a été faite par le docteur Rosenstein, a dit que en fait, 32,8% ont fait un lien entre les comportements perturbateurs et les événements indésirables. 35,4% ont fait un lien entre les comportements perturbateurs et les erreurs médicales. 24,7% avec la sécurité des patients et 12,3% avec la mortalité. Alors, le problème est culturel. Par conséquent, nous allons parler de culture. Qu'est-ce qu'on entend par culture? La culture, moi j'utilise une définition qui est la mienne, très simple. Tout le monde la connaît, personne n'en parle et ça n'est écrit nulle part. C'est plus puissant que n'importe quoi dans n'importe quelle institution, surtout la connaissance. Dr. Kathleen Stinson a fait une étude et elle a enseigné les meilleures pratiques à ses infirmières pour les accouchements. Et ensuite, elle s'assurait que les infirmières autorisées connaissaient bien le matériel. Mais à la fin, elle posait une question astucieuse. Le médecin arrive sur l'unité et il vous demande, en fait, de donner une prescription, mais qui est la mauvaise. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, est-ce que vous suivriez cette prescription? 78% oui. Mais 45% ont dit oui, mais je surveillais de plus près le patient, même si la prescription était mauvaise. Oh, oh, là, on arrive au cœur du problème. Qu'est-ce que c'est la culture? Imaginez une planche blanche, un tableau blanc. J'ai dit à un groupe d'infirmières en soins intensifs avec laquelle j'avais de la difficulté à communiquer un jour. Je me suis tournée vers cette page blanche. Je dis, vous voyez cette page blanche? Si je devais tirer une ligne sur cette ligne blanche, qu'est-ce qu'elle représente, cette ligne? Une infirmière a dit, la réhabilitation. J'ai tiré une autre ligne. Alors, ça, c'est médical. Qu'est-ce qui vient après médical? Alors, quelqu'un dit chirurgical. Et après chirurgical, bon, urgence, salle d'opération, etc. Qu'est-ce qui est en haut? Alors maintenant, elles ne répondent pas, elles sont silencieuses. Et j'ai dit, peu importe, en fait, si vous êtes les meilleures infirmières au monde et si vous êtes capables, en fait, de soigner les patients, mais si vous étiez dans, comme mon une amie, en fait, qui est dans un centre de réhabilitation et qui maintenant est incapable de bouger le côté droit de son corps et qui était sur une scène la semaine dernière. En fait, moi, je veux les meilleures infirmières en réhabilitation au monde. Et lorsque je suis en chirurgie, je veux une infirmière dont les connaissances sont tellement approfondies et tellement larges, tellement vastes, qu'elle est capable d'identifier tout ce qu'elle voit. Et ce qui est ironique, c'est que peu importe le nombre de fois où j'ai fait cet exercice avec des infirmières, ça ne marche pas. En fait, la santé publique, ça n'apparaît même pas. Personne n'en parle. Pourquoi? En fait, ça n'est même pas sur la liste. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi est-ce qu'il en est ainsi? À la fin de la journée, vous allez comprendre. Ça porte sur notre spécialité aussi. Nous avons ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Il y a une chaîne alimentaire aussi pour l'hôpital qui est au haut. qui occupe les échelons supérieurs, les administrateurs, les médecins. Qui est au bas? Non, les concierges. Bon, enfin, les femmes de ménage. Les femmes de ménage, laboratoires, ceux qui font le transport, les infirmières, les préposés. Et lorsque vous devenez une infirmière, lorsque vous êtes une infirmière praticienne, vous n'êtes plus une infirmière parce que vous êtes en haut, vous n'êtes plus en bas. Et ça se passe même chez les médecins. Bon, en haut, qu'est-ce qu'on a chez les médecins? On a les neurologues et les chirurgiens cardiaques. Et au bas, qu'est-ce qu'on a? D'où est-ce que ça vient, cette culture? C'est une culture. Ça s'appelle la hiérarchie. Et maintenant, la hiérarchie existe depuis des années. Je viens de parler à un groupe d'infirmières canadiennes qui travaillent au service correctionnel, en prison. Mon Dieu, j'ai ouvert grand les yeux. C'était fascinant. Et une infirmière m'a dit, je vais vous raconter ma première journée et à quel point j'ai été assimilée dans la culture de la prison. J'ai téléphoné en bas et j'ai dit aux gardes, il faut que je voie Mme Johnson à la clinique immédiatement parce qu'elle est à 355 de taux de glycémie. Et le gardien m'a dit immédiatement, de toute ta vie, ne dites jamais « Monsieur Johnson ». Et en fait, pour votre information, j'ai fermé la clinique pour aujourd'hui. Dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus subtil que ça. Warners parle de la façon dont elle parlait, en fait, des problèmes dans la salle d'opération. Qu'est-ce que c'est la culture? Vous ne trouverez pas ça dans votre manuel d'orientation. Personne n'en parle en faculté, personne n'en parle pendant votre formation. Vous devez comprendre ce que c'est vous-même. Alors, ce que le médecin demande un outil précis, il le demande encore une fois, il le redemande et sa main est tendue. Et votre précepteur arrive et il donne tout d'un coup le bon instrument. Tout d'un coup, il y a un contact des yeux. Le message passe. Le médecin regarde l'infirmière qu'elle ne lui a pas donné suffisamment rapidement et dit, « Mon Dieu, dis-moi pas que je vais être obligé de travailler avec elle ou avec lui. » Il ne dit pas fort. Pourquoi? Parce que 93 % de la communication est non-verbale. 93 % est non-verbale. J'aimerais que vous pensiez à votre environnement actuel. Est-ce quelque chose dans votre environnement de travail qui fonctionne pas? Est-ce qu'il y en a qui vous aiment pas dans votre environnement de travail? Alors, chaque fois que vous avez une hiérarchie et qu'il y a des gens qui sentent qu'ils ont plus de pouvoir que d'autres, à ce moment-là, vous avez un syndrome d'agressivité qui est là. Et puis, ceci, cela, c'est délégué sur les infirmières, puis ça crée de l'hostilité entre elles. Vous avez déjà vu ça. Pratiquement 70 % impliquaient des médecins. J'aimerais souligner que l'autre 30 % ça veut dire des querelles, en fait, entre infirmières, retard dans les soins, communication imparfaite ou non claire. Je n'ai jamais vu un hôpital ou un système qui a abordé la question des relations infirmière-médecin avant le 11 septembre. Alors, quelqu'un n'a pas besoin de mourir tout simplement parce que l'infirmière a hésité à téléphoner le médecin, ce qui a donné lieu à deux décès en quelques jours. Est-ce qu'il ne savait pas que l'infirmière avait peur d'appeler le médecin à l'avance? Oui, il le savait. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas vu ça? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont rien fait? Parce que nous voyons ce que nous voulons bien voir. Les êtres humains voient ce qu'ils veulent bien voir. Ça s'appelle être myope, la myopie volontaire. On a fait une étude pour savoir à quel point les gens qui vivaient près d'un barrage auraient peur que le barrage s'effondre. Ils se sont rendus compte que les gens avaient peur que le barrage s'effondre. Et plus on allait, en fait, en aval de la rivière, moins les gens avaient peur. Mais lorsqu'ils ont fait l'étude, en fait, 2 kilomètres avant le barrage, à ce moment-là, les gens n'avaient pas peur. Lorsqu'ils ont demandé aux gens qui étaient dont les maisons étaient juste en dessous du barrage, les gens ont dit quoi? Un barrage? Quel barrage? Ah, ce barrage-là, dont ils se sont rendus compte, c'était que lorsque les êtres humains vivent dans un danger, ils sont dans le déni pour ce qui est de ce danger. Ils n'y pensent même pas. Alors, ici, on parle de danger physique, social et émotionnel. et on travaille très fort. Hier, il y a une infirmière en chef qui m'a téléphoné d'un hôpital et pendant 20 minutes, elle m'a dit à quel point l'hôpital était formidable, à quel point les programmes étaient formidables et toutes les belles choses qu'ils faisaient à cet hôpital-là. Et en fait, j'ai essayé, en fait, finalement, de lui faire voir ce qu'elle ne voyait pas. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle évitait de parler des problèmes? Parce que nous travaillons tellement fort. Nous travaillons tellement fort et plus nous travaillons fort et le plus près nous travaillons aussi avec les gens avec lesquels nous travaillons tous les jours, les gens ont leur rôle et vous vous attendez à ce qu'ils se comportent d'une façon ou d'une autre. J'ai divorcé à cause de ça. Alors, il y a quelques mythes qui existent. Le premier dont on vient de parler, c'est que ces comportements ne nous bouleversent pas. On continue, en fait, à avoir les idées claires. Malgré ça, je vous dirais que les êtres humains sont beaucoup plus vulnérables et fragiles que vous pourriez le penser. Ils sont très impressionnables. L'étude a montré précisément que si quelqu'un par le passé a été grossier ou a agi comme un déviant, comme un pervers, c'est-à-dire qu'il ne suivait pas les mêmes règles que les autres lorsque il est arrivé à l'établissement. Bon, si je suis en train de travailler à un dossier à l'ordinateur et cette personne arrive à l'unité, mon attention est immédiatement détournée de ce que je fais et je suis en train de suivre le comportement de déviant. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pour ne pas être pris de façon imprévue. Peu importe les établissements que je visite, il y a des similarités. Tout d'abord, de 5 à 8%, selon mon estimation, de tous les hôpitaux, après avoir parlé à des milliers de gens, et après avoir lu beaucoup de recherches, seulement 3 à 5 % des médecins, en fait, ont un comportement perturbateur. Même chose qu'on entend des infirmières. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que, en fait, nous ne comprenons pas vraiment, et nous ne croyons pas vraiment, qu'une pomme pourrie gâche toute la caisse. Votre mère avait tort. Dr. Phelps a fait une recherche là-dessus, une recherche approfondie. Il s'est rendu compte que si une personne ne suit pas les règles ou ne se comporte pas bien, eh bien, cela sape la confiance au sein de l'équipe. N'utilise jamais le mot équipe. Le mot équipe, on peut le prononcer lorsqu'on parle de confiance. Et tant qu'il n'y a qu'une personne qui ne joue pas, qui ne fait pas sa juste part, ou qui ne joue pas selon les règles des autres, ou qui n'est pas compétente, en fait. Eh bien, à ce moment-là, vous n'aurez jamais d'équipe ou d'esprit d'équipe. Bon, j'ai téléphoné l'anesthésiste a donné, en fait, un médicament à un patient qu'il n'aurait jamais dû donner. Mais en fait, pour régler le problème, j'ai dû faire de la formation. Donc, comment avoir une équipe fiable, sécurité des patients. Alors, je finis mon cours, j'ai fait ma valise, je pars et une des infirmières vient me voir et me dit, tu connais pas toute l'histoire. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est pas assez grave comme ça. Elle a dit, mais tu vois, pendant tout le temps où ce médecin administrait l'épinéphrine, il parlait à son planificateur financier sur son téléphone cellulaire. Alors, j'ai fait venir les 16 infirmières dans la salle de cours et j'ai dit, après un jour et demi, qu'est-ce que je vais dire après avoir entendu ça? Je les ai regardées et je leur ai dit, je n'ai qu'une question à vous poser et je m'en vais après. Si c'était votre fils qui avait été sur la table, est-ce que vous auriez parlé à ce moment-là? Parce que si ça n'est pas la façon dont les soins sont prodigués, s'il n'y a pas, c'est pas la procédure habituelle, à ce moment-là, on a perdu le sens de notre profession. Écoutez, votre téléphone doit être fermé lorsque vous arrivez, à l'unité. Est-ce qu'un médecin ou une infirmière peut s'occuper d'un patient, en fait, si son téléphone est ouvert? Au cours de la dernière année, vous savez très bien que les médecins ne peuvent pas opérer leurs proches. 40% de l'auditoire ne le savait pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la dissonance cognitive. Bon, si vous êtes jamais pris, comme Eric l'a été, dans une situation où vous regardez, vous voyez que personne n'a lavé les mains, ne s'est lavé les mains. Vous pouvez en fait, donner tous les manuels d'études à cette personne. Mais là-bas, c'est que si personne ne lève ses mains, bon, imaginez-vous que c'est votre mère qui est dans l'autre, dans la chambre. Moi, en fait, j'étais gestionnaire lorsqu'on a introduit cette règle de laver les mains. Et la même semaine, mon fils est entré à l'hôpital. Et lorsque c'est arrivé, j'ai vu que beaucoup ne se lavaient pas les mains. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes coincé dans une culture. Vous devez comprendre la culture. Vous devez comprendre les êtres humains. Je suis dans une pièce. Le médecin, en fait, vient d'enlever un pansement très sanguignolant et dit au revoir à la famille. Et je me dis, mon Dieu, il ne s'est pas lavé les mains après avoir enlevé le patient. Je ne vais pas l'embarrasser devant la famille. Je vais lui dire plutôt à la porte. Alors, je m'en vais vers la porte et son partenaire arrive et qui dit, Joe, est-ce que je peux te parler pendant quelques instants? Et là, je me dis, oh non, 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 je vais rater l'occasion de lui parler. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je l'embarrasse devant les membres de la famille? Est-ce que je l'embarrasse devant son copain? Parce que, en fait, je m'en fais pour ça. Moi, je ne veux pas qu'il ait l'air, je veux pas qu'il ait honte. Et je veux pas que le patient ne soit pas en sécurité. Et je veux pas qu'il sorte de la pièce sans être lavé les mains. Et très rapidement, je frappe sur la porte et je dis, oh, mais docteur, c'est ici, là, dans la pièce. Et il se retourne et il dit, oh, merci, merci. Ah, j'aimerais donc qu'ils arrêtent de déménager ces choses-là.
Mais ça prend énormément de courage pour changer une culture. Et nous allons voir pourquoi. Lorsque les pouvoirs sont inégaux dans les relations, à quelque niveau que ce soit, et que le niveau d'en haut descend, eh bien, on voit qu'il y a des comportements hostiles qui apparaissent. Bon, par exemple, les gens qui lèvent les sourcils, qui se roulent les yeux. Je me rappelle le jour où j'ai embauché mon premier infirmier homme. Il est arrivé dans l'unité, il a vu ses patients, il s'est assis à la station et en 45 minutes, il a commencé à rédiger ses dossiers. La première infirmière qui a passé, il a fait... Et je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, je suis restée là dans le coin et j'ai regardé une autre infirmière passer et faire comme ça. Et je me demande, mais qu'est-ce que c'est que ce langage silencieux? Et finalement, j'ai compris. Ah, eh bien, s'il est assis seulement 45 minutes après le début de son quart de travail, il ne doit pas être un très bon infirmier. Alors, j'ai embauché 4 autres infirmiers hommes. La cause la plus courante d'expression de l'hostilité par les infirmières, c'est, bon, lever les sourcils, rouler les yeux. C'est sans doute les infirmières dans les salles d'opération qui ont commencé à avoir ce comportement, n'est-ce pas? S'il y avait une émission de réalité pour la communication non-verbale, je suis sûre que les infirmières remporteraient les Golden Globes. On remporterait haut la main. Je voulais en savoir un peu plus sur les guerres intestines. Alors, j'ai recueilli 30 histoires de la part des infirmières et voici une découverte fascinante que j'ai faite. Les infirmières manifestaient les mêmes syndromes, les mêmes symptômes que les femmes battues. Elles voulaient rester anonymes. Elles imaginaient que c'était de leur faute. Elles n'en parlaient à personne. C'était vraiment incroyable. Alors, comment changer la culture de la médecine? On sait qu'il y a seulement quelques médecins qui perturbent l'atmosphère et on leur permet de pratiquer. Je peux vous donner le nom de PDG au Canada qui ont été congédiés parce qu'ils ont tenté de changer le comportement perturbateur d'un médecin. Alors, si le PDG n'est pas en sécurité, est-ce que vous allez ouvrir la bouche? Non. Et on sait que une seule personne, médecin, infirmière, qui que ce soit, peut causer beaucoup de problèmes. Mais on sait que c'est seulement 25% qui sont très bons, 50% sont excellents, donc on a beaucoup de chemin à faire. Où est-ce qu'on va avec tout ça? Où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce que ça veut dire, la collégialité? Qu'est-ce que ça veut dire? Dr. Bruce Avolio a dit, les chefs de file amènent le futur dans le présent. Quel avenir est-ce qu'on veut créer? Qu'est-ce qui pourrait décrire cet avenir? Sacha a donné un bon exemple avec son histoire de ce qu'il avait appris. Hein, lorsqu'il a raconté cette histoire, lorsque l'infirmière a dit 95%, ça c'est un excellent exemple de ce à quoi l'avenir pourrait ressembler. Mais si on avait vraiment des rapports égaux, si moi j'avais l'impression que je valais tout autant qu'un médecin, qu'est-ce qui changerait? Je me sentirais libre de m'exprimer. Avec merci s'il vous plaît. J'essayais de comprendre la théorie derrière les relations entre les médecins et les infirmières. Et j'ai découvert la théorie de l'oppression, découverte par un homme qui s'appelle Paula Fring, qui avait qu'une seule question à poser. Qu'est-ce qui se passe dans les groupes d'êtres humains lorsque certains êtres humains ont plus de pouvoir que d'autres? C'est tout, c'est la seule question. Il y a des êtres humains qui ont plus de pouvoir que d'autres. Et il s'est aperçu qu'il y avait un groupe dominant, même si c'était des petits groupes, qui exerçaient tellement de pouvoir sur le groupe de personnes opprimées que les personnes opprimées commençaient à se battre entre elles parce qu'elles ne pouvaient rien faire contre le groupe d'opprimants. Et c'était inconscient. Et on sait que dans les groupes d'opprimés, tout le monde veut rester pareil. Est-ce qu'on fonctionne comme un groupe opprimé? Dans l'étude sur le silence tue, plus de 80% des médecins ont dit qu'ils travaillaient avec des gens qui avaient de mauvais jugements professionnels, mais personne ne disait rien, pas seulement les infirmières. Dans une autre étude, on a découvert un comportement de par lequel on se tait nous-mêmes, on se fait taire nous-mêmes. On ne dit rien, même si on sait quelle est la vérité. Pourquoi est-ce que les gens se font taire eux-mêmes? Parce qu'ils ont des valeurs différentes. Voici de l'information fascinante. Qu'est-ce que vous voulez dire des valeurs différentes? Ils valorisent la relation les uns avec les autres plus que n'importe quoi d'autre. C'est ce que faisaient ces infirmières dans la salle d'opération. Pourquoi est-ce qu'un groupe de personnes aime rester ensemble comme un banc de poissons? Eh bien, pour rester en sécurité. Malheureusement, ça se fait à un niveau très primitif. C'est la réalité. Lorsque quelqu'un agit différemment, si, par exemple, Eric dit « Désolé, mais j'ai remarqué que vous ne vous êtes pas lavé les mains », il va devenir ce qu'on appelle une cible pour pratiquer le tir de n'importe quelle direction. Parce qu'ils brisent la norme. Lorsque les êtres humains créent un groupe, il y a des choses qu'ils peuvent faire, qu'ils devraient faire et qu'ils devraient jamais faire. Et il a fait quelque chose qu'on devrait jamais faire dans un groupe. On n'identifie pas des anomalies. Non, non, il faut rester parfait. Pourquoi? Mais d'où est-ce que ça vient, ce comportement? Eh bien, ça vient de ce qu'on appelle le mime, si vous voulez, l'ADN. On voit que nos petits-enfants ressemblent aux grands-parents, etc. Mais on ne voit pas le mime culturel. Et cela traverse les générations aussi. Et ça veut dire que le travail infirmier, c'est le travail de Dieu. Si c'est le travail de Dieu, eh bien, c'est pas votre travail, on n'en parle pas. Autre chose aussi. Un livre a été écrit sur les codes culturels et il a été embauché par 50 des compagnies Fortune 500 et il pouvait vendre n'importe quoi, n'importe quelle compagnie parce que il pouvait comprendre le code, il pouvait déchiffrer le code culturel. Il voulait savoir, par exemple, dans les hôpitaux comment ça marchait. Il a utilisé la même méthodologie. Il a pris un groupe de 30 personnes, les a mis dans une salle et pour la première heure, il a dit on est ici pour parler de repas de famille ou quel que soit le sujet. Ensuite, il savait que les êtres humains vous dit ce que vous voulez entendre. Pendant la deuxième heure, on lui faisait se détendre. Et la troisième heure, il leur posait seulement une question. Et là, on enregistrait toutes les réponses. Quel est votre premier souvenir d'un repas de famille? Et qu'est-ce qu'il recherchait là? Il recherchait l'empreinte. Il recherchait l'empreinte. Il l'a fait dans les hôpitaux avec des médecins et avec des infirmières. Pour les hôpitaux, il a regardé toute l'information. Les gens qui disaient, mon infirmière, mon médecin a enlevé ma ligne intraveineuse, j'ai pu quitter l'hôpital, etc. Il a regardé tout ça et il a vu que le code dans les hôpitaux, c'était en fait un code de prison. Les congés, la permission de sortir, etc. Ça, c'était pour les patients. Mais qu'est-ce que c'était pour les médecins? Bon, c'était pas Dieu, mais proche. Il a vu que c'était le code du super-héros. Le super-héros qui vous sauve de la mort et de la maladie. Et la seule fois dans ma carrière où je peux me rappeler d'une chose pareille, c'était que je parlais à un groupe de médecins à Seattle dans une salle d'urgence et j'ai dit à un moment donné, vous savez, lorsqu'un enfant arrive à l'urgence et que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire pour sauver l'enfant et les parents vous regardent toujours et disent toujours la même chose. Faites quelque chose, docteur. Faites quelque chose. Vous n'êtes pas un magicien, hein? Et je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas faire l'impossible. Qu'est-ce que c'est? Quel est le code pour les infirmières? La profession dans laquelle on a le plus confiance. C'est le rôle maternel, le rôle de la mère. Et il y a un gros problème avec ça. Premièrement, on tient nos mères pour acquis pendant une longue période de notre vie. même si la mère nous donne sa dernière bouchée, on prend ça pour acquis, parce que c'est la mère. Et la mère, c'est pas une profession d'être mère. C'est intéressant, non? Le fait d'être mère, c'est pas une profession. Quand vous voulez changer les relations entre les infirmières et les médecins, il faut se battre contre les codes culturels. Comment faire? Ce que vous êtes supposé faire, ne jamais faire, pouvez faire, devriez faire, il faut briser toutes les règles. Et les personnes qui retournent à l'environnement de travail, qui commencent à briser ces règles, ont besoin de votre protection. Donc, n'agissez jamais seul, faites-le ensemble. Alors, les deux principaux facteurs qui affectent la communication sont la culture et la hiérarchie. Martin Luther King a dit, « Nos vies commencent à se terminer le jour où nous devenons silencieux au sujet des choses qui comptent. » C'est une phrase très forte. J'aimerais faire un petit exercice avec vous maintenant, si vous me le permettez. Ça prend juste 2 minutes. Et vous n'avez pas à parler à votre voisin ou à partager vos réponses, ni avec vos voisins, ni avec moi. C'est sécuritaire psychologiquement parce que l'exercice va se passer seulement dans votre tête. Il ne faut pas que vous perdiez du temps dans cet exercice. Alors, tout ce que vous devez faire, c'est d'être honnête. Soyez honnête avec vous-même. Si je pouvais vous garantir, par écrit, que la conversation serait transcrite exactement comme vous l'aviez planifié, comme vous l'aviez souhaité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans votre environnement de travail, avec qui vous voudriez parler? Si oui, dites simplement oui ou non. Je ne vois pas de non. Levez la main si vous n'avez pas besoin d'avoir une conversation avec personne dans votre environnement de travail. Ça voudrait dire donc 350 personnes sont concernées ici. Imaginez si je déchirais la feuille. Pas de garantie écrite. Cette personne est assise à côté de vous. Maintenant, je veux simplement que vous donniez un numéro de 1 à 10 au sujet de cette conversation. Elle serait facile ou difficile? Facile, 0, 1, 2, 3, levez la main si ça serait facile, si vous donneriez un 0, 1, 2, 3. Personne ne lève la main. Si ce serait une difficulté de niveau 4 ou 5, levez la main. Une demi-douzaine. 6 ou 7? 2 douzaines. Et niveau difficulté 8, 9, 10? Ah, toute la salle. J'ai fait ça plus souvent au Canada qu'aux États-Unis. 80% des gens dans la salle disent 8, 9 ou 10. Qu'ils soient les infirmières chefs de l'hôpital, qu'ils soient personnel de première ligne, gestionnaire de risque, infirmière, 80% dans tous les groupes disent que c'est une difficulté de niveau 8, 9 ou 10. Alors, la partie volontaire maintenant. Partagez avec nous, pas votre conversation, pas la personne avec qui vous voudriez l'avoir, mais qu'est-ce qui vous a empêché d'avoir cette conversation? Qu'est-ce qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de ne pas l'avoir? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas eu la conversation?
Just one reason. Not somebody else.
Une seule raison, pas quelqu'un d'autre. Vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé à cette personne? Si vous aviez une garantie écrite que tout allait se passer bien, vous l'auriez fait, mais sans garantie, vous ne le faites pas. La peur que cela empire les choses. Merci, je vois beaucoup de gens qui font oui de la tête. Ils sont d'accord. Plus d'une personne. Quelle autre raison? Donc, la peur que ça empirerait les choses. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? La peur que je me trompe, j'ai peut-être pas toutes les données en main. Ne pas connaître les conséquences. Ne pas être au courant des conséquences de cette conversation. Quoi d'autre? La peur des représailles. À quoi ça ressemble les représailles dans la profession infirmière? Ah, il y a beaucoup de gens qui rient, donc créatif. On est très créatif, eh ouais. On peut, par exemple, vous donner une mauvaise affectation, on peut vous isoler. Et la troisième plus populaire, le refus d'aider. Et ça fait du tort à qui, ça? La dissonance cognitive, encore une fois. On ne peut pas rester dans notre tête avec ce problème. La peur des représailles. Est-ce qu'il y a d'autres types de représailles? Quoi d'autre? On vous dit, ben, vivez avec, acceptez la situation. Ce n'est pas votre problème, ce n'est pas de vos affaires. Oui. Quoi d'autre? Ça n'existe pas. Non, non, c'est dans ta tête, c'est pas mon problème, c'est le tien. Je sais pas de quoi tu parles, c'est pas mon problème. On m'appelle un celle qui mène le trouble. On cherche de l'or. Pourquoi? Parce qu'on touche à la culture. Ce sont les raisons mêmes pour lesquelles la culture n'a pas changé. Quelles sont les autres raisons? Qu'est-ce qui vous a empêché personnellement d'avoir cette conversation? Les personnes ne vont pas m'écouter, ne vont pas m'entendre, ne seront pas réceptives. Il y en a une qui est très populaire, je ne l'ai pas entendue encore. Ah oui, peut-être que les autres ne vous supporteront pas et vous serez isolé, vous serez considéré comme la personne qui amène le trouble. C'est une perte de temps, pourquoi s'en préoccuper? De toute façon, il n'y a rien qui va changer. Autre chose? Sentiment d'impuissance. Oui, on va prendre une autre raison. Le commérage, oui, tout à fait. Voilà les réponses que vous m'avez données et que tout le monde me donne. Ce sont les mêmes réponses à chaque fois qu'ils reviennent. Peur des représailles, peur d'endommager la relation, peur des commérages, bouc émissaire, j'ai pas le temps, pourquoi s'en préoccuper, de toute façon rien ne changera, et la peur d'être isolé du groupe. Wow. Qu'est-ce qui est le plus important pour un être humain? Ce que l'on sait? Non, j'arrive dans un magasin rayon, et dès que j'ouvre la porte, il est 8 heures le soir, je veux juste rapidement acheter un parapluie. Il y a un enfant qui gémit, elle pleure pas, elle gémit, sa voix monte, descend, elle se lamente. Et je me dis, oh mon Dieu, quel drame! Je vais chercher mon parapluie et on annonce que le magasin ferme. J'arrive au comptoir, à la caisse, je suis à côté de la mère et à cet enfant qui se lamente, qui n'a jamais cessé de se lamenter. Je suis curieuse, je me tourne vers la mère et je dis, elle a trop regardé la télé? Et la mère me regarde et dit, oh non, non, pas du tout. Mais non, première année, regarde ça. Elle se penche, elle regarde sa fille dans les yeux et dit, Peggy, utilise des mots, Peggy. Et là, Peggy commence à mettre des paroles sur sa chanson. Peggy nous dit, oh, enfin, elle ne dit pas, elle s'étouffe en parlant. Il me déteste. Personne ne m'aime. Personne veut jouer avec moi. Parce que cet enfant vient juste de commencer sa première année et sa douleur, sa souffrance est tellement palpable, tellement visible, vous avez l'impression de pouvoir attraper sa douleur avec la main. C'est vrai que vous ayez 6 ans ou 60 ans ou 56 ou 46 ans, quand vous êtes isolé du groupe, quand vous êtes rejeté par le groupe, eh bien, c'est la chose la plus horrible que l'on puisse faire à un autre être humain. Il n'y a rien de pire. C'est la raison pour laquelle les gens se suicident, comme une infirmière au Canada récemment, l'an dernier, parce qu'elle n'avait pas le droit d'appartenir au groupe. Alors, le plus grand besoin de l'âme, c'est le besoin d'appartenance. Donc, la culture des soins de santé. Hein? Nous sommes une culture, on vient de l'apprendre, une culture basée sur la peur. Comment vivre dans une culture basée sur la peur? Et pourquoi les gens opprimés restent en groupe? Parce qu'ils veulent rester en sécurité. Regardez cette liste. Qu'est-ce qui fait ces choses-là? Qui est le coupable de tout ça? Les infirmières et les médecins. On s'inflige cela les uns aux autres. On s'inflige ces choses-là les uns aux autres. Personne n'est à l'abri. Les besoins des médecins ne sont pas différents des besoins des infirmières quant au besoin d'être acceptée, au besoin d'appartenance. C'est le même besoin. Donc, comment briser le cycle d'oppression? Deux choses. Il faut lever le voile et montrer que, waouh, tout cela est vraiment important, tout cela est sérieux, on se l'inflige les uns aux autres et on ne dit rien. On parle d'impuissance, hein, d'absence de pouvoir. Eh bien, c'est une question d'expression. Voix et pouvoir, c'est synonyme. Et on n'agit pas différemment au travail et à la maison. On n'arrive pas au travail en disant, « Bon, maintenant, je vais communiquer de façon assurée. » On ne change pas de style de communication de passif-agressif à assuré de la maison au travail. Et il faut avoir un peu d'estime de soi pour comprendre que ce qu'on fait compte et que c'est pas juste des petits détails, c'est pas juste des corps, des tâches. J'ai eu chirurgie 2 mois, ils ont tout fait bien. Au niveau technique, ils auraient pas pu être meilleurs. Ils ont vérifié chaque détail, mon bracelet, identification, tout. Tout a bien été fait au niveau technique, mais je ne me suis pas sentie comme si j'étais un être humain. Personne ne m'a vue. Et la cinquième fois que quelqu'un m'a demandé mon nom, j'ai dit, eh bien, je suis 925-253. Ils ont dit, OK. Parce qu'ils s'en foutaient de mon nom, en fait. Donc, pour le reste de mon séjour à l'hôpital, j'ai dit, je suis 592-53. Bah, pas de problème, dans le lit 32. Vous n'avez pas besoin de savoir quoi que ce soit d'autre sur moi, seulement mon numéro. Ça suffit. Il y a juste 3 types de styles de communication. Passif-agressif, agressif. Qu'est-ce que ça a en commun? Le style passif-agressif et le style agressif. Une faible estime de soi. C'est seulement le style affirmatif. Les gens qui peuvent vraiment s'affirmer, dire ce qu'ils pensent, s'exprimer et le faire tout le temps. Seulement, ce style-là est un style affirmatif. Donc, j'ai fait de la formation. J'ai demandé à mes infirmières de discuter de ces définitions avec leurs partenaires, les médecins. Je leur ai expliqué que c'était crucial pour les patients. Et ils m'ont renvoyé mes PowerPoint avec toutes sortes de photos de ces requins, de ce banc de requins. Et ils ont dit, ben, on a déjà nagé dans ce banc de requins et voilà tout ce qu'on peut vous dire. Et je ne pouvais rien rajouter. Ça veut dire qu'il faut donner beaucoup, beaucoup d'éducation. Il faut changer les choses. Mais ce que les gens veulent savoir, c'est que je suis là pour les protéger. C'est ça qui comptait. Quelqu'un arrive en larmes dans mon bureau et dit, oh non, ça fait 5 jours que je travaille avec cette famille. Et ce médecin est arrivé et il a détruit la relation que j'avais avec le patient en moins de 2 minutes en m'humiliant. Est-ce que vous pouvez lui parler? Non, je peux pas lui parler. Eh bien, on va faire comme à l'école. Hein? Tu m'appelles la prochaine fois que le médecin revient. Il va être là demain. Très bien. Elle m'appelle, j'arrive. Excusez-moi, docteur, est-ce que je vous parlais pour un instant en privé? On va dans une salle privée. J'ai bien compris qu'hier, vous avez eu une interaction avec l'une de mes infirmières qui l'a laissée défaster et elle s'est sentie non appréciée. Désolée, pouvez-vous lui dire que je suis désolée? Et moi, je me dis, je pense que les règles, quand il s'agit de s'excuser, ça a été établi en maternelle, c'est-à-dire que la personne qui s'excuse devrait être la personne qui a fait la mauvaise chose. Je mords la langue. Bon, j'ai dit très bien, je vais m'excuser pour vous. Mais lorsque j'ai voulu m'excuser pour lui, l'infirmière était partie, il était parti. Mais est-ce que ça comptait? Non, j'avais dit la vérité. Il s'était excusé, l'infirmière savait que je la protégeais. Et à ce moment-là, j'ai établi une nouvelle norme dans l'unité. Ça, c'est un exemple de la façon dont vous pouvez établir une nouvelle norme dans une unité. Mais en vérité, pour beaucoup, beaucoup d'infirmières, c'est un peu comme le magicien d'Oz. Je suis Oz, le grand sorcier puissant, et je sais pourquoi vous êtes venu. Et nous tremblons devant Oz, malgré toute l'éducation. Parce qu'après que j'ai écrit le livre, que j'ai fait des conférences pendant 2 ans, je travaillais toujours comme infirmière et j'avais encore peur. Et des millions de fois, j'ai dû vraiment faire des gros efforts, me forcer pour avoir ces conversations. Désolé, docteur, quand vous avez tiré l'oreiller dessous les jambes du patient, eh bien, ça donne l'impression que l'oreiller n'aurait jamais dû être là. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que j'ai mis l'oreiller là, dites-le moi et ça va me faire plaisir de ne plus le faire la prochaine fois. Mais quand vous tirez comme ça l'oreiller, vous la jetez par terre ou comme un médecin a fait, il a vérifié si il y avait dissertation, il a tout lancé ses gants, il a lancé ses gants par terre, il a dit, oh, je pensais que c'était une infirmière compétente. Elle n'est pas dilatée à 7 cm, elle est tellement dilatée à 6 cm. Il a quitté la salle en jetant ses gants. Très bien. Eh oui. Constamment, ça arrive. Mais au fond, il y a de la peur. Donc, malgré toute la formation sur la communication, ce qui va arrêter la peur à la fin, comme Sean l'a dit, et Sacha, c'est la simulation. Pourquoi? Parce que vous jouez des rôles. Vous créez de nouveaux neurones, de nouvelles façons de réagir dans votre cerveau. C'est utile de comprendre l'analyse transactionnelle, même si ça date des années 70 et on disait que on a tous à l'intérieur de nous un adulte, un parent, un enfant. Et on réagit selon l'un de ces rôles avec la personne en face qui joue le rôle soit de parent, d'adulte ou d'enfant. Pourquoi? À cause du fait que l'âge moyen de l'infirmière est 40 ans ou plus et à cause de cela, l'empreinte de l'image du père a été formée avant l'âge de 5 ans Et en étant un homme et en ayant une grosse voix, ça suffit pour déclencher le rôle de l'enfant devant son père. Mais il faut créer des conversations d'adulte à adulte et pas parent-enfant. Comment le faire? J'ai regardé Dawn le faire. Donna, elle est infirmière itinérante. Et ce que je sais de ces gens-là, c'est qu'elles peuvent prendre des risques parce qu'elle n'a pas besoin de travailler là tout le temps. Elle peut prendre des risques. Un médecin arrive dans l'unité, claque le dossier sur la table. Qui s'occupe de Mme Watson? J'ai dit, c'est Donna, je vais aller la chercher pour vous. Et il tourne les feuilles tellement fort qu'il déchire une feuille. Et je me dis, oh mon Dieu, j'aimerais bien avoir un code pour Donna. Alors, j'appelle Donna et je dis, Dr. X vous attend pour vous parler. Elle dit, très bien, j'arrive tout de suite. Elle arrive de façon très professionnelle. Elle arrive à la première station d'infirmière et elle dit, docteur, je suis Donna et je m'occupe de Mme Watson aujourd'hui. Comment je peux vous aider? Et il aboie sur elle. Qu'est-ce qui s'occupe d'elle? À qui? Pourquoi on a donné des narcotiques à cette patiente? Qui en a donné? Et sans hésiter, elle répond, je suis ici depuis 10 heures. Je vais rester ici encore 12 heures. J'en ai pas donné, mais si c'est à vous de le faire, faites-le. Je vais vous aider. Il n'y a aucun problème. Et il est resté complètement bouche bée. Toutes les autres infirmières, s'ils avaient pu la prendre et la jucher sur leur épaule et la balader partout dans l'hôpital, elle l'aurait fait. Allez, Donna. Mais elle pouvait se permettre de prendre un risque parce qu'elle ne travaillait pas là tout le temps et son estime de soi était assez haute. Parce que quand vous travaillez avec le même groupe tout le temps, eh bien, vous vous préoccupez de ce que les gens pensent de vous et vous voulez pas choquer quelqu'un, vous voulez pas les déranger, vous voulez pas les mettre en colère. C'est pas juste nos fragilités, c'est nos forces que nous ne connaissons pas. Pensez aux gens avec qui vous aimez le plus travailler. Vous êtes comme du Démerol et du Fénergan. Pensez à une autre personne. Imaginez, ça s'appelle la synergie. Imaginez à quoi ressembleraient les choses si toutes les infirmières, tous les médecins sur l'unité se ressentaient la même chose. Et qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de se comporter ainsi? Simplement nos peurs. On travaille dans une culture basée sur la peur. Et on se concentre sur deux choses, le langage et le comportement, quand on est dans ce genre de culture. Et ce livre, Tribal Leadership, l'explique très bien. Vous avez passé en revue déjà l'échelle des différentes relations, mais je veux vous dire que tout ça, c'est basé sur le pouvoir. Le pouvoir égal, presque égal, mutuel, etc. C'est le pouvoir, la quantité de pouvoir que vous avez. Les médecins font face à beaucoup de pression, diminution des remboursements, augmentation de la charge de travail, augmentation des coûts, et aux professionnels, autonomie, lourdeur bureaucratique et l'abaissement de morale. Il y a beaucoup de pression aussi sur les infirmières, acuité plus élevée, charge de travail plus élevée, les patients physiquement plus lourds, manque de personnel infirmier, moins de temps passé avec les patients. Et on a étudié une unité de 12 heures. Ils ont fait un contrôle sur 24 heures. Le temps moyen, et ça c'était il y a 5 ans, le temps moyen qu'une infirmière passe en contact direct avec un patient sur 12 heures, c'était 22 minutes. 22 minutes. Comment est-ce que c'est possible? Charge de travail plus complexe. On fait 163 tâches. C'est pourquoi Stéphanie avait toutes ces choses qui pouvaient l'aider à être très efficace. Ce qu'il faut faire, c'est créer, je pense, de nouveaux vêtements pour les infirmières avec plein de poches. Donc, 163 tâches et un quart de travail de 8 heures. Et pas une tâche dure plus de 2 minutes, 45 minutes. 19 interruptions, 75 tâches cognitives. On doit faire une chose après l'autre et au fur et à mesure que la pression augmente et que le travail est plus complexe, on perd notre capacité de penser, d'avoir une pensée critique. J'ai essayé d'expliquer à une unité où il y avait donc un membre du personnel sur 15 patients, c'est que la mort d'un des patients était due au problème de dotation. Quand ils ont changé la dotation et quand on est revenu à une charge de travail plus normale, ils devraient recommencer l'éducation parce que j'ai demandé à chaque infirmière, pourquoi est-ce que vous pensez que ce patient est à risque? Et dans une unité de 32 lits, il y a 29 signes de précaution. Personne ne pouvait me répondre. J'ai demandé à au moins 6 ou 7 infirmières, pourquoi est-ce que votre patient est dans cet état? Je ne sais pas, j'ai pas le temps de réfléchir, j'ai pas le temps d'y penser. Si on n'a pas le temps de penser, comment agir? Des forces transformationnelles qui viennent de l'extérieur de nos mondes. Dr. Joe Bujak indique toutes sortes de choses qui augmentent le stress pour les infirmières et pour les médecins sur les lieux de travail. Tous ces facteurs sont importants. Au bout du compte, les choses sont plus compliquées, plus complexes, même à l'extérieur du travail. Est-ce que tu pourrais pas éteindre les télés? Ne vois-tu pas que je suis au téléphone? Dit la mère en voiture. On a des beepers, des Blackberry, des pagettes, etc. Don Burrow, qui dit « Chaque système est parfaitement conçu pour atteindre de façon exacte les résultats qu'il produit de façon constante. » Notre relation avec les médecins et les relations des médecins avec les infirmières sont parfaitement conçues pour atteindre les résultats que ça produit de façon constante. Mais les résultats, c'est une illusion parce que il a dit 75 % des médecins ne savent pas ce que les infirmières font et 70 % des médecins les respectent. Vous me respectez, mais vous savez pas ce que je fais. Et c'est différent parce que quand on en arrive au cœur du sujet, c'est pas vraiment nos croyances qui comptent. Moi, je peux pas vous faire confiance et vous respecter si je ne sais pas ce que vous faites. C'est absolument impossible pour moi de le faire. Et tout cela est devenu clair pour moi un jour. Une histoire qui m'a appris plus que n'importe quoi.
Je suis allée dans une... Alors, il y a toutes sortes d'infirmières qui sont près du poste et qui sont en train de remplir un rapport d'incident. Et il y a quelqu'un qui dit, mettez mon nom là-dessus aussi. C'était terrible. Mettez votre nom sur quoi? Dr. P a crié après Molly. Où est Molly? Elle est dans la salle de bain à cause de son nez qui coule. Sa pression a tellement augmenté qu'elle saigne du nez. Mais ça va aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Il est arrivé pour libérer son patient, quatrième jour pour sa hanche, et il allait libérer la personne. Molly est allée voir le médecin. Il a dit, écoutez, docteur, le patient se plaint de douleurs abdominales. Les cellules ne sont pas bonnes. Il n'a pas mangé de petit déjeuner, pas de souper hier soir. Il ne mange pas. Et il a un historique de maladie. Ne pensez-vous pas qu'on devrait faire un KUB avant de le renvoyer chez lui ou de s'assurer au moins qu'il mange convenablement? Et le médecin s'est retourné. Il lui a hurlé après. Suffisamment fort pour que tout autre patient sur l'unitaire. Est-ce que tu es allé 10 ans à faire des études médicales? Est-ce que tu es allé? Alors, ta gueule. Tout le monde a entendu. C'était comme si on avait été frappé par quelque chose, mais qu'on ne savait pas par quoi. J'ai pris le rapport d'incident. En tant que gestionnaire, je suis allée dans mon bureau. Je me suis dit, il fallait que je fasse un suivi. Il fallait que je l'appelle. Je ne savais pas quoi faire, comment m'y prendre, mais je l'ai appelé. Dieu merci, il n'était pas là, fait que je me suis un peu épargnée le choc immédiat. J'ai laissé un message, j'ai dit, il faut qu'on se parle. Et le lendemain, à 3 heures, il m'appelle et il me dit, vous m'avez le message, comme quoi vous vouliez me voir. J'ai terminé ma chirurgie à 4 heures, est-ce que ça vous convient? J'ai dit oui. J'étais super contente. Il rentre dans mon bureau, j'ai tout mis mon bureau propre, j'avais que le rapport d'incident qui était sur le bureau. Le reste avait disparu. Et j'ai dit, je voulais vous parler de l'incident qui avait eu lieu hier. Et il a dit, quoi? Moi, je pensais que c'était quelque chose d'important. C'est tout? C'est tout ce qui vous préoccupe? Moi, je pensais que c'était quelque chose d'important, cela. Et je me suis dit, oh mon Dieu, comment, en tant que gestionnaire, en tant que leader, comment est-ce que je peux m'attendre à ce que mes effectifs à moi arrivent à passer au travers d'une réunion alors que moi-même, j'y arrive pas? Il croise ses jambes, il met ses bras sur l'arrière de la chaise, il est là comme si il était en shoot de photo pour GQ Magazine, super détendu, c'est tout! Puis là, je me suis dit, mais là, je fais quoi? Et je me suis dit, chaque système est parfaitement conçu pour atteindre de façon exacte les résultats qu'il produit de façon constante. Avez-vous entendu parler de ça, Dr. P? Oui? Ben, très bien. Parce que j'aimerais que vous sachiez que votre système de communication avec les infirmiers et infirmières est parfaitement conçu de donner les mêmes résultats à tous les coups. Manque de confiance, une hargne, une colère, un sentiment de manque de respect des deux côtés. Est-ce que vous voulez changer votre système? D'un seul coup, il a baissé son bras dessus le dossier de la chaise. Après une minute, il m'a regardé dans les yeux et il a dit, vous ne pensez pas que je vois qu'il voit que je pense que je suis un nul médecin? Et j'en revenais pas. J'étais vraiment perplexe. Il exécutait rapidement. Il faisait sortir et libérer ses patients le plus rapidement possible. 2 semaines avant, un patient était tombé en allant aux toilettes. Un infirmier avait demandé est-ce qu'il y a une évaluation pour voir une évaluation des lieux où la personne habitait. Et justement, il avait été inscrit sur le dossier. Il n'est pas une bonne idée de les libérer et de les faire rentrer chez eux. Et lui a écrit, non, libérer, la personne rentre chez eux. Vous ne pensez pas que je vois qu'il pense que je suis un médecin nul? Et parce qu'il a été si honnête, j'ai été honnête. Et j'ai dit, non, je ne pensais pas que vous le sachiez. Que vous le saviez plutôt. Tout d'abord, il a dit, pour un patient qui ne mange pas et qui ne boit pas, comment ça se fait qu'il y avait 17 000 cc dans son intraveineuse? Et il y a 3 semaines, lorsque le patient était dans mon bureau, j'ai déjà vu qu'ils avaient déjà une certaine maladie et que je savais que cette personne-là allait avoir une autre maladie et je me suis dit que j'allais vite les remarquer chez eux pour avant que la prophétie se réalise. Et j'ai dit, vous n'aviez pas envie de communiquer ça avec une des infirmières? Bon. Il se lève, il part. Ce que je fais après, c'est que je me lève et je m'en vais voir ces infirmières qui remplissent ce formulaire d'incident, de rapport d'incident. Je leur ai tout raconté mot pour mot et vous auriez dû voir leur visage tomber. Et il a dit, vous ne pensez pas que je le vois dans leurs yeux, leur mépris? Le lendemain, il arrive dans l'unité, Brenda à son patient, et il est sarcastique, qui dit, apparemment, il faut que je communique mieux. Et Brenda ignore son sarcasme, et dit, oui, mais tu sais, je pense que c'est là une très bonne idée. Il dit, vous comprenez que si j'avais été en capacité de communiquer, je ne serais pas divorcée, n'est-ce pas? Oui, ça, je l'avais compris, docteur, oui. Et ils s'en vont voir le patient, il n'y a rien qui se passe, il ressort, il écrit dans son dossier sur le patient et il s'en va et il pas 15-20 pieds. Et de ce coup, Brendan dit, Dr. P, il se retourne et elle lui dit, on ne veut pas vous divorcer. Et il dit, quoi? Vous dites quoi? On ne veut pas de divorce. Et c'était vraiment la chose la plus précieuse qu'elle aurait pu lui dire. Pourquoi nous sommes terrifiés? Pourquoi nous avons l'impression d'être dans le magicien d'Oz avec la grosse voix tonitruante et le petit chien Toto? Rappelez-vous la scène suivante. Il tire le rideau jusqu'à l'autre bout, l'autre extrémité. Et qu'est-ce qu'on voit de l'autre côté? Un homme, un tout petit bout d'homme, un être humain qui parle dans un micro. Nous avons tous les mêmes besoins. Tous. Vous ne pouvez pas les rédiger, les liens entre les personnes, jusqu'à ce qu'on perçoive les doutes, les blessures, les besoins, l'importance que l'on représente les uns pour les autres, les choses ne changeront pas. Qu'allons-nous faire à cet égard? Donc, notre objectif est de travailler ensemble de façon coopérative, se partageant les responsabilités pour la résolution des problèmes, la gestion des conflits, les décisions, la communication et la coordination dans le but d'améliorer les résultats. Est-ce que c'est comme ça maintenant? Non. Alors, comment allons-nous y arriver? Je vais vous parler de certains faits. 93% des communications ne sont pas verbales. À St. Mary's, peu importe quand vous ayez dit quelque chose, si vous avez l'impression d'être ignoré par quelqu'un et qu'ils ne vous ont pas accordé d'attention, c'est terrible. Probablement quiconque ou tout le monde dans la salle a eu le sentiment déjà dans sa vie où vous avez envie de dire quelque chose à un médecin qui est très, très, très occupé. Vous lui dites, excusez-moi, là, monsieur le médecin, mais vous voulez qu'il sache que le niveau de potassium est trop élevé, là. Excusez-moi. Et le médecin vous regarde genre, quoi? C'est quoi, là? Il se regarde, dépêche-toi, là. J'ai d'autres choses à faire. Faites vite. Vous les interrompez, vous les embêtez, vous les enquiquinez, n'est-ce pas? Et tout de suite, ça donne lieu à du doute. Modèle que j'enseigne, c'est le modèle des ESC, modèle de communication. S-bar, c'est très bon, mais il y aurait ce modèle-ci, par exemple, lorsqu'il y a de la confrontation ou du conflit. Confrontation-conflit. Je vais vous faire une petite description. Décrire, débiter et mentionner les faits. Je vais vous parler de relations entre les infirmières et vous traduirez ça comme vous voudrez. Mais au bout du compte, si quelqu'un dit quelque chose, ah, il y a quelqu'un qui rentre dans la salle de rapport, je suis en retard pour mon tour de service, j'entends quelqu'un dire que je suis laxiste et puis j'empire la situation. Et tout ce que je fais là, pendant ma prochaine ronde, je dis, vous croyez-vous ce que j'ai entendu dire à propos de mon sujet? Si vous utilisez ce modèle de communication, vous dites, excusez-moi, Margaret, j'aimerais vous dire quelque chose en privé, si vous me le permettez, décrivez. Je vous ai entendu dire que j'étais laxiste et que là, vous êtes exprimé, vous avez dit du mal de moi. C'était quoi votre sentiment? Parlez-moi de votre sentiment. Ben, j'étais dévastée parce que j'en revenais pas, parce que je ne laisserai jamais du travail à faire pour l'autre infirmière. Dites ce que vous pensez. S'il y a quelque chose que je ne fais pas, il faut que je l'améliore. Vous devez me le dire. Je veux être un joueur d'équipe. Si vous me dites rien, je n'arriverai pas à m'améliorer. Même chose avec les médecins. Le médecin arrive dans l'unité. Ah, vous avez un problème. Excusez-moi. Est-ce que je peux te parler deux secondes en privé? Vous décrivez ce qui se passe quand vous avez roulé les yeux lorsque je vous ai donné une critique positive. J'ai eu l'impression que je vous interrompais. Et donc, j'ai le sentiment que c'est pas une bonne idée de partager de l'information avec vous. Est-ce que vous trouviez que c'était pas important? Parce qu'évidemment, je ne veux pas vous soumettre des données qui sont pas pertinentes, mais j'ai besoin de feedback et de rétroaction pour que l'on ait de bons rapports et que je ne répète pas ça. Si je vous amène des données qui sont pertinentes, il faut me dire, OK, oui, super. Vous savez, la question avec la théorie de l'oppression, c'est ceci. Peu importe ce que fait le groupe de dominants, comment vous vous libérez de l'oppression, c'est à vous de gérer ça. C'est votre réaction. Lorsque vous tolérez ça, lorsque vous êtes silencieux, lorsque vous fuyez, parce que pour avoir des rapports égaux, donc ou à pied d'égalité, on a parlé de l'idée du médecin, n'est-ce pas, comme étant un roi. Le roi doit enlever sa couronne. Mais évidemment, l'infirmière doit prendre la robe ou la cape du roi, n'est-ce pas? Pour avoir une voix égale, il faut une parité. Vous devez avoir ces rapports agréables avec tous ces médecins avec qui vous pouvez parler et dire et leur dire n'importe quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle collégial. Collaborateur, c'est que vous pouvez dire des choses, vous le dites là, vous le faites parvenir là, de façon subtile ou pas, vous dites, ah, soit dit en passant, ou ne voudriez-vous pas savoir, c'est un petit jeu. Et vous n'utilisez pas vos vrais pouvoirs. On a déjà parlé de S-Bar. Ce que nous devons vraiment faire pour avoir ces liens, ça vient du haut, de soutien au leadership. Tout en haut, lorsqu'il faut qu'il y ait zéro tolérance pour ces comportements. Ce n'est pas correct pour quiconque dans le domaine de la santé, peu importe qui ils sont, quel est leur rang, quoi que ce soit. Si quiconque manque de respect ou est poli, pourquoi? Parce que nous menons des tests cognitifs tout le temps. Et ceci met en jeu nos gens. Sage Readers a décidé de mener un sondage. Évaluer l'étendue des comportements perturbateurs qui ont un impact sur les soins. Reconnaître l'existence du problème. Alors, quel est le sentiment des infirmières? La réception des CP sur les soins, l'efficacité des mesures pour gérer les CP, les fréquences des CP et l'impact des CP. Donc, ils ont établi quelque chose, une grille très transparente avec la liste des comportements désirables, ceux qui n'étaient pas professionnels et ceux qui étaient perturbateurs. Eh bien, tout est devenu très, très clair. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait avant qu'une personne ne meure et une deuxième personne est décédée et une autre gravement blessée. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que ça va prendre? Pourquoi on ne maintient pas, on ne respecte pas notre obligation éthique? On en fait tant sur la sécurité du patient, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de bonnes choses. Il y a des listes de vérification, des questions de sûreté de toutes sortes. Vous savez ce dont il est question. Votre environnement de travail sera sécuritaire lorsque vous pourrez répondre à cette question. Est-ce que quelqu'un peut s'occuper de votre être cher? Est-ce que n'importe quel infirmier, infirmière ou médecin peut le faire? Lorsque la réponse à cela sera oui, alors ce sera une vague énergétique comme un tsunami et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Comme Sean l'a dit, et Tasha, on ne comprend pas les rôles de tout un chacun. Un jour, je suis allée dans une unité, j'ai regardé leur dossier. Ils ont des petites feuilles pour tous les médecins. Dr. Critch veut que ces petites bandelettes soient coupées en deux. Celui-ci, oui. Celui-ci, non. Celui-ci, vous pouvez le prendre le drain. Celui-là, non. J'ai demandé l'autre à l'infirmière. C'est ridicule. Ils ont des pages et des pages de petites notes. Ensuite, je vais dans la salle de rapport et il y a une grosse affiche qui dit, s'il vous plaît, souvenez-vous, docteur X ne veut pas souligner cette fois qu'on enlève les drains, seulement tous les autres médecins. Alors, je me dis, mais que vais-je faire? J'ai un rapport super avec mes médecins. Mais ça ne veut pas dire si je le dis, parce que de toute façon, ils ne comprennent pas mon monde à moi. Finalement, un soir, j'ai tout compris. Je me suis dit, je vais leur tendre un piège. Je leur ai dit, est-ce que je peux faire une présentation de 10 minutes pendant les rondes orthopédiques? Oui, très bien. Je ne prendrai pas plus de 10 minutes, je vous le promets. Je n'ai que 12 clichés. Et j'ai dit, nous avons 6 nouvelles infirmières et j'aimerais les garder. La rétention et le recrutement, c'est des gros problèmes. Alors, je veux m'assurer qu'elles aient tout compris. J'ai pris tous les renseignements et j'ai inclus ça dans ce genre de petit film de formation. Pouvez-vous le regarder et vous me direz si vous voyez quelque erreur. Pour la mobilité et les précautions postérieures, sauf pour une exception, Dr. TKM70. Pour les précautions antérieures, voici la première série. Ensuite, voici la deuxième. Et voici la troisième. Alors, il y a des précautions pour la même chirurgie. Y a-t-il autre chose? Ensuite, j'ai regardé autre chose. Regardez les pansements. Regardez les pansements de votre côté. Est-ce que c'est bon? Et regardez au bas de celui-ci. Alors, j'ai écrit, donne du sang autologue dans l'unité PACU. Donne à l'unité autologue, si le drain, etc. Bon. Ensuite, Les médecins qui se sont dit, bon, on a tout compris, là. On a compris. Ils étaient mal à l'aise. Ils ont compris. J'ai 6 nouvelles infirmières et j'espère qu'elles peuvent se rappeler qui veut leur pansement coupé en bandelettes de moitié et d'autres non. L'autre jour, j'étais dans un centre ambulatoire et il y avait 3 cartes de préférence pour les colonoscopies. Il y a un médecin qui voulait que le gel doit soit dans le tube, un autre à côté et un autre sur le 4x4. Écoutez, là, de se rappeler de tout ça, c'est pas là qu'on veut que le cerveau se concentre. Si vous pensez à Stéphanie, qui en a trop sur la patate, il y a tous ces tests, et là, vous lui ajoutez cette soupe mentale où il faut se rappeler des préférences comme une petite fête pour les enfants. Qui c'est qui aime pas les patates, là? Purée, franchement. Mais non, il n'y en a pas un seul des médecins qui s'était rendu compte de ça. Eux sont les rois de leur propre pratique et eux font ce que eux savent fonctionne. Et ils ont élaboré et travaillé sur ce qu'ils savent comprendre. Mais ils ne savaient pas vraiment ce que faisaient leurs collègues. Alors, la première chose que vous pouvez faire, c'est montrer l'incidence du comportement dans le fonctionnement de l'unité. Ensuite, faire le lien entre la sécurité et les relations en racontant une histoire. Les données ne vont pas changer. Dites-nous quelque chose à propos d'un patient qui a souffert. Une jeune mère de 27 ans, une infirmière l'a appelée plus de 5 fois et dire, s'il vous plaît, venez, il y a vraiment sa gorge qui gonfle. C'est pas normal, mettez de la glace et c'est tout. Elle est morte 3 heures plus tard. Elle est en train de saigner. Elle était là que pour une chirurgie de la mâchoire. Et elle avait 2 jeunes enfants. Alors, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois que quelqu'un ne se lave pas les mains ou ne nous écoute pas ou on fait quelque chose de critique? Quand nous, notre valeur INR était à 20, il a dit non, non. J'ai dit quoi? Pas de commande, pas d'ordre, pas d'ordre. Mais il saigne. Vraiment, il saigne beaucoup. Il n'y a pas d'ordre. Mais là, que faire? Vous montez la chaîne de commande. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? On est allé voir le prochain médecin qui, nous le savions, allait écouter. Vite, vite, va chercher le plasma gelé, 2 litres de vitamine K, etc., etc. Qu'est-ce qu'il avait, ce type? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'il ne partage pas ses renseignements avec nous. Mais c'est très important. La deuxième chose, la raison pour laquelle la culture ne change pas, c'est que on ne dit pas les choses terribles qui se passent. On travaille très fort et on veut voir les résultats. Si on connaissait les patients qu'on entend, si on racontait les histoires de notre propre unité, si les médecins racontaient les histoires, des délais dans les soins ont une incidence sur un résultat avec un mauvais résultat. Parce que, évidemment, ils ont une pléthore d'histoires à raconter, les médecins aussi. C'est pas un corps contre l'autre, mais en autant qu'on étouffe les renseignements, on peut jouer le jeu. Il y a un hôpital à Seattle où tous les jours, on arrive au travail et... Non, Cincinnati Children's, pas Seattle. Vous ouvrez votre ordinateur et sur l'écran, en haut à droite de chaque écran, ça dit « jour depuis que l'enfant a eu un mal été traité à notre soin » ou « effet indésirable ». Et lorsque c'est dit 1 ou 2, vous ne pouvez pas empêcher quiconque de cliquer dessus. Ils cliquent dessus parce qu'ils veulent savoir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas refaire la même erreur. Alors, quand vous cachez le mal qui est fait, le tort, si vous ne parlez pas des erreurs, ça va continuer. Vous voulez un groupe de médecins et d'infirmières qui travaillent au même endroit, qui sont sur la même longueur d'onde, à l'intérieur de 5 minutes, je vais vous dire comment faire. Et il faut qu'ils s'assoient tous à la même table et que tout le monde fait les rondes et partage la dernière erreur faite. Tout le monde. C'est tout. Il n'y a pas d'autre intervention nécessaire. Racontez la dernière histoire d'horreur. Parce que, au bout du compte, c'est pas sécuritaire parce qu'en tant qu'équipe, on fonctionne pas bien. On a parlé donc de forme, de modèle de collaboration. Bon, il reste pas beaucoup de temps, mais ça ne va pas fonctionner si on nous impose pas de travailler ensemble d'une façon ou d'une autre. Assurez-vous d'avoir une certaine structure pour l'impossibilité. Saint Rita a enligné les médecins et les interventions des employés de la même façon. Il n'y a pas une série de règles différentes d'un groupe pour l'autre. Il n'y aura jamais de confiance à moins d'avoir les mêmes règles pour tout le monde impliqué. Voilà, les mêmes règles pour tout le monde. Alors, on peut faire semblant de ne pas voir le vrai enjeu ad vitam aeternam où on peut agir. Si votre mission et valeur est à avoir avec le respect, la compassion, l'honnêteté et l'intégrité, bien, si c'est pas ça, c'est une blague. Ce sont des mots écrits sur le mur par des personnes qui sont mortes. Ce n'est que vrai si vous vivez selon ce que vous prêchez. Alors, créez vos propres valeurs.
Dr. Hickson, The Venerable, en parle de façon exemplaire. Il a créé une espèce de noyau de médecins. Ce sont les médecins qui établissent qui est imputable. Qui est la personne la plus efficace pour ce qui est du comportement des médecins? Les personnes à qui ça arrive, c'est-à-dire les infirmiers et infirmières. Lorsque vous allez voir votre gestionnaire, vous remplissez un rapport d'incident, vous abandonnez un peu de votre pouvoir. À chaque fois que vous attendez à ce que quelqu'un d'autre règle votre problème, vous jouez un rôle de soumission. Vous avez un problème avec quelqu'un, allez les voir directement. Mais on a encore cette autorité parentale et encore cette hiérarchie. Alors, Dr. Hickson a élaboré un plan. Si quelque chose arrive, il y a une réunion officieuse. Ensuite, c'est une tendance avec le même comportement qui ressurgit encore un cas. Il y a une intervention de sensibilité et si ça marche pas, une figure d'autorité comme le CMO s'implique et ce sont les mêmes conséquences pour tout le monde. Vous êtes suspendu, etc. Whitley dit, lorsque les gens avec les mêmes buts ont accès aux données importantes et qu'on leur permet de s'engager dans un dialogue stimulant, une magie se produit. Alors, quelles sont les occasions précises dont vous pouvez profiter pour améliorer les liens entre infirmiers et médecins? Tout d'abord, serait sans l'ombre d'un doute que votre voix, de savoir que votre voix, de parler, de vous exprimer est la chose la plus importante de toutes. Avoir le soutien administratif de en haut, montrer l'impact de tout, de préférence au comportement. Ça, c'est possible en ligne aussi, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Faire le lien avec la sécurité. Si tout le monde pense que tout est si génial, eh bien, découvrez-le. J'avais un ami médecin qui est un très bon ami. Il est chirurgien EMT. Il y a 2 mois, il était en train de dire à quel point il était formidable. Ses employés l'adorent. Ah oui? Comment le savent-ils? Est-ce qu'ils vous l'ont dit? Non, mais je sais que je fais un boulot formidable. Je leur achète des beignes. Et ils continuent. Avec des choses qui n'ont aucun sens. Vous pensez vraiment que vous êtes un chirurgien formidable? OK, ben j'ai un défi à vous lancer. Allez voir si c'est vrai. Quoi? Oui, allez vous déterminer si c'est vrai. Posez la question. Tout le monde dans la salle devrait aller voir la personne avec qui il travaille le plus étroitement et dire qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que tu aimerais voir de plus? Pourquoi? Parce qu'il faut briser un autre mythe. Le mythe que nous sommes parfaits, qu'un bon médecin, une bonne infirmière ne fait pas d'erreur. Oubliez ça. Il n'y a pas une personne dans cette salle qui n'a pas fait d'erreur auparavant. Vous n'avez pas besoin de faire une erreur parce que si vous avez une équipe qui vous surveille, il n'y en aurait pas eu d'erreur. Moi, je viens de Seattle où on a perdu une de nos infirmières l'année dernière. Elle a fait une erreur médicale et elle s'est suicidée. C'est pas que les patients. Nous savons que c'est dangereux. Pourquoi on parle de culture de crainte? Parce qu'on sait que c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'on voit des choses se passer. C'est la réalité. On le voit. C'est quelque chose que l'on voit de nos propres yeux et personne ne va changer ça pour nous. Chaque médecin et infirmière se comporte différemment et de prendre un risque, c'est ce qui va changer. L'éducation et la communication affirmative. Lorsque vous avez commencé la première fois, votre première intraveineuse, et vous avez dit, oh, ben, ça marche pas, ben, j'en fais plus jamais. Mais non. La première conversation avec le médecin, là, ou avec l'infirmière, vous dites pas, bon, ben, je lui parle plus, elle. Mais non. Comment on fait pour aller voir une infirmière chevronnée quand on est tout nouveau et elle vous fait comprendre qu'elle a absolument pas le temps de vous parler? Est-ce que ça arrive encore? Est-ce qu'il est possible d'avoir des services? Excusez-moi, j'aimerais vous parler quelques minutes. J'ai bien compris que vous avez beaucoup de travail, mais quand vous m'ignorez, j'ai l'impression de vraiment avoir aucune importance et j'ai l'impression que vous ne voulez pas que je sois là. J'ai besoin d'établir un lien avec vous parce que je veux être une bonne infirmière. Et si j'arrive pas à établir un lien et on n'a pas le temps, j'aurai rien appris et je ne resterai pas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Bon, évidemment, il y a du sentiment derrière tout ça. Quel est le sentiment? Ces mots sont formulés par quelqu'un qui se préoccupe de son soi, de ses émotions. Nos vies se terminent quand on ne parle plus de ce qui est important. On a l'air de porter des pyjamas la moitié du temps. Pourquoi? Je porte ce drôle de costume et j'ai l'air de sortir du lit et je suis toute froissée. Mais non, je n'ai pas de fer à repasser. Je veux dire, ça aussi, ça aide pas. Quand même. Pourquoi vous ne prenez pas mon opinion au sérieux? Je ne sais pas. Je devrais vous chatouiller peut-être. C'est ça qui vous vient en tête quand vous me voyez. La rétroaction est la norme. Ayez des conversations au quotidien.
Vous devez avoir des conversations tous les jours. Il y a quelque chose qu'on appelle café et repas partagé, hein, n'est-ce pas? Alors, tous les jours, donc, le patient, médecin, infirmière se voit dans la salle. Tout le monde, les médecins, les clients, tout le monde, la satisfaction de tout le monde a grimpé. Plus de 90%. Ça a été ici au sein d'une unité et maintenant les médecins font ça dans les autres unités. Parce qu'on ne manque pas l'information critique. On est tous au diapason. C'est vraiment triste. C'est très difficile pour les médecins de connaître un succès. Dans une étude récente, 58% des gens ont dit que leur médecin expliquait toujours des choses de telle sorte à ce qu'ils le comprennent. Écoutez ces statistiques. 68 et 85% des patients ne pouvaient pas nommer le médecin qui était à leur soin. Un autre 58% ne savait même pas pourquoi ils étaient à l'hôpital. 57% reçu un nouveau médicament pendant qu'ils étaient hospitalisés. 25% ne savaient même pas qu'on leur avait donné un nouveau médicament. 90% non, se sont jamais fait dire qu'il y avait des effets indésirables ou secondaires. 38% n'étaient même pas au courant du fait qu'ils allaient subir des tests. Comment obtenir une satisfaction? C'est tellement déconnecté entre le patient et le médecin. Un manque de communication. Ils veulent penser que leurs médecins sont si extraordinaires qu'ils vont le penser même si c'est pas le vrai. Et ils veulent pas embêter l'infirmière parce que s'ils embêtent l'infirmière, à ce moment-là, ils sont vraiment impuissants. Et si je vous fâche en vous posant trop de questions ou en vous demandant l'autorisation d'uriner sans me lever, vous allez finir par vous fâcher. Bon, Catherine Turpey a écrit un livre qui s'appelle Losing Face. Elle était patiente, elle a perdu son visage. Tout son visage était vraiment fracturé de partout. Finalement, elle a perdu son visage à toute fin pratique. 16 opérations dans le visage. Des centaines d'infirmiers, d'infirmières, de médecins. Et elle a dit qu'il y en avait un. Un chirurgien est venu et il a tenu son visage dans ses mains et il l'a regardé dans les yeux et il est allé l'atteindre là où aucun scalpel pouvait la rejoindre. Il a dit, la seule fois que je savais le sentiment d'être digne ou que j'allais peut-être avoir une valeur un jour et que je n'aurais peut-être pas cette allure-là toute ma vie. Et c'était comme s'il avait vu le plus profond de mon être et je me suis sentie moi à nouveau. Ça, on demande combien pour ça? N'oubliez pas qu'il s'agit d'une vocation. On est censé être dédié à la cause. On est devant l'humanité la plus vulnérable. Et si on avait à saisir une seule photo, c'est la main de Dieu et qui se penche avec, vous savez, cette peinture, ce portrait dans la chapelle Sistine. Voilà, c'est comme ça. Eh bien, la vision de ce que vous faites là, qui est très importante. Chaque client devrait être traité comme si c'était votre fille ou votre mère, parce que c'est la fille ou la mère de quelqu'un. C'est la seule façon d'empêcher cet état des choses. Alors, des célébrations conjointes, etc., tous ces moments-là, parlez, dites ce que vous avez à dire, dites votre vérité. Lorsque vous allez retourner dans votre environnement de travail, malgré le meilleur des intentions et à cause des êtres humains, on tombe rapidement dans les anciennes habitudes. C'est comme l'estrade. On connaît nos rôles. On connaît l'infirmière à qui on ne demanderait jamais de l'aide. On sait qu'il y en a une qui ne viendra viendra jamais de toute façon faire deux tours de service de suite. Bon, je pouvais continuer ad vitam aeternam. Vous avez tous compris? Nous avons ces rapports parce que nous travaillons tellement étroitement au quotidien. Et pour avoir des liens plus amicaux, eh bien, les médecins et les infirmiers et infirmières auront à prendre des risques. Et si vous n'avez pas le sentiment de prendre des risques, eh bien, rien ne changera. Comme Jerry Garcia l'a déjà dit, quelqu'un doit faire quelque chose et c'est très pathétique que ce doit être nous. Ce que j'aimerais faire à ce stade-ci, c'est de vous raconter une courte histoire. Et Sacha et moi-même vont jouer des rôles. Ensuite, on vous accordera 10 minutes et vous aurez de nouveau des conversations. Et j'aimerais voir l'équipe qui est venue et qui a fait une petite démonstration pour cette histoire formidable. Merci du courage dont vous avez fait montre en nous racontant ça. Peut-être que vous pourrez venir faire ça d'une autre façon. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter est la suivante. Non, on va faire l'histoire de 10 minutes. Non, le 10 minutes, vous avez donc 10 minutes pour parler à la personne à côté de vous. Rappelez-vous comment vous avez raconté une histoire au début de l'atelier, au tout début? Bon, là, j'aimerais que vous parliez exactement de cette même situation, mais cette fois-ci, sachant ce que vous savez maintenant, que feriez-vous de différent? 10 minutes. Alors, comment agiriez-vous différemment?
them a couple minutes. I'm going to raise my hand. It's okay. Three more minutes.
Je vous donne encore 3 minutes.
Do we have... Awesome, thank you.
Formidable, merci beaucoup. Et maintenant, Sacha va monter sur la scène et on va jouer le premier sketch que je vous ai présenté auparavant, en début d'après-midi, celui avec le téléphone, avec l'appel plutôt, l'appel au médecin. Je pense que j'ai peut-être déchiré mes répliques. Alors, le téléphone sonne, dring, dring. Docteur F? Oui, Docteur F, le voilà. Oui, bonjour. Bon, c'est lui qui va être mon coach. Bon, il va être mon entraîneur, en fait. Et si je fais pas les choses d'une façon optimale, eh bien, à ce moment-là, il va m'interrompre. Docteur F, je m'excuse de vous déranger. Mais... Qu'est-ce qui se passe là? Ah ben, vous commencez par des excuses là, par demander pardon. D'accord. Docteur F, j'ai un patient qui a été admis hier, c'est un patient difficile. Bon, maintenant qu'est-ce qu'il y a? Alors, vous parlez beaucoup trop vite là. Bon, moi j'ai 16 patients, vous savez. Alors ma collègue est en pause, il faut que j'aille vite. Alors docteur F, je suis non, faut pas que je dise que je m'excuse, je vous demande pardon, faut que j'oublie ça. Ah non, s'il vous plaît, n'osez pas m'appeler Sunshine, là, comme tout à l'heure. Docteur F, je suis Kathleen Bartolomeo et je vous appelle pour vous parler d'un patient qui a été admis hier parce que, bon, en fait, tout le monde n'est pas là, tout le monde est parti, je ne sais pas ce qui se passe. Non, comment ça, vous ne savez pas ce qui se passe? Je répète, qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, ils sont partout. Docteur F, je suis Kathleen Bartolomeo. Je vous appelle pour la chambre 403D, Monsieur Benton. Sa famille a quitté les lieux et il est très, très, très énervé. Ses signes vitaux ne sont pas normaux. Et je n'ai pas les résultats. Alors, je vais raccrocher tout de suite, là. Je peux pas continuer. Je rappelle, dring, dring. Bonjour. Docteur F, je suis Kathleen Bartolomeo. Je suis à l'aile 3 Ouest. J'aurais dû vous dire où j'étais. Et je vous appelle au sujet de Monsieur Benton, qui a été admis hier. C'est un patient de Dr. Clark au 403D. Il a été admis avec une pneumonie. Il est très agité. Il fait de la tachycardie. Les membres de sa famille, donc, ont quitté les lieux. Et puis, il est très, très, très bouleversé. Très agité. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Bon, j'imagine que... Bon, je n'ai pas le temps, là, de penser à ton travail aussi, là. J'ai assez de penser au mien. Non. En fait, j'ai pas dit ça, mais c'est ce que je pensais néanmoins. Bon. En fait, je suis surtout préoccupée par sa sécurité parce que les membres de sa famille sont partis. J'ai voulu les convaincre de rester, mais ils ont refusé. Alors, j'ai bien peur qu'ils deviennent sceptiques. Alors, peut-être qu'il faudrait que je lui fasse des tests sanguins. Peut-être qu'on pourrait faire ça, puis je pourrais vous montrer, en fait, les résultats. Vous avez peur qu'il ait un empoisonnement, qu'il devienne sceptique, et vous voudriez que je vienne tout de suite? Oui, ça me sécuriserait, en fait. Merci. Merci beaucoup. Peut-être que vous ne le savez pas, mais ce S-bar dont on a parlé, ça a été adopté en Californie parce que tellement d'infirmières avaient l'impression qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, puis elles pouvaient pas mettre leur doigt dessus. Il y a de la nouvelle recherche qui dit maintenant que lorsque vous avez cette impression viscérale, c'est qu'il y a un pattern de choses qui sont produites. Par exemple, A, B, C, D, C, produit, et ensuite, voilà la réaction du patient. Et puis, votre cerveau a déjà traité ce pattern-là, et par conséquent, vous êtes informé. Alors, maintenant, on dit, bon, il faut que j'y vienne, je suis préoccupée parce que je sais vraiment pas ce qui se passe avec ce patient. Mais je pense fermement que vous devriez examiner le patient. Et en 24 heures, bien sûr, le médecin n'a pas le droit de dire qu'il avait perdu son temps ou pas. Alors, qu'en est-il du deuxième sketch qu'on a joué devant vous? Est-ce que l'équipe aimerait revenir et le rejouer? Oui? Parce que vous vous retrouvez dans une situation tellement difficile et tellement impuissante. Et ça, on veut pas que vous reviviez ça encore une fois. Allez-y, docteur.
Alors, cette fois, pour refléter la bonne image, je vais parler en français, parce que je pense que ça serait plus le message va être transmis en français. Donc, pour, on a parlé du non-verbal. Pour l'infirmier, le non-verbal est très, très important. Donc, l'observation du non-verbal, peut-être, serait plus important. Donc, j'aimerais bien que la communication non-verbale va être importante aussi pour moi. OK.
Bonjour, docteur K. Je suis l'infirmière pour Madame D à 5134. Elle a, en fait, son bras saigne. Alors, elle est entrée donc pour une urgence. Alors, son bras gauche d'une ancienne ecchymose saigne depuis déjà 2 heures. J'ai remplacé le pansement 2 fois. Pouvez-vous remplacer le ENR et peut-être me donner une ordonnance ou une prescription, en fait, pour le un nouveau pansement.
Mais ce que je voudrais, c'est vous expliquer encore plus. Cette patiente est porteuse de valve mitrale, donc je ne pourrais vraiment pas renverser son INR. Ce que je compterais vraiment sur ta contribution, avoir un bon suivi, l'observer. L'éventualité de renverser son INR serait vraiment comme dernière solution si jamais le saignement est très, très important. Donc, j'apprécie vraiment une contribution de votre part pour avoir un bon suivi chez elle, surveiller ses signes vitaux, renforcer sa compression de la plaie et éventuellement m'informer de tout changement comme que vous jugerez assez significatif. Et merci.
OK.
Je pense que c'est idéal.
Can I talk to you for a second?
Est-ce que je peux vous parler pendant quelques instants? Comment vous êtes-vous senti? Beaucoup mieux que si on m'avait dit « oui, ça va, c'est d'accord, oui, ça va comme ça ». Donc, dans vos propres mots, ce premier scénario qui s'est déjà produit, j'en suis certaine, comment est-ce que ça vous a affecté? Parce que je suis sûre que vous n'avez pas gardé ça pour vous. Non, on en a parlé au sein de l'unité, bien sûr. C'est un incident qui nous a fait nous sentir dévalorisés, non professionnels, et qu'on n'estimait pas qu'on était responsable. On a vu que l'état du patient ne cessait de se détériorer, et on a vu, en fait, que il fallait changer le pansement continuellement. Oui, effectivement, c'est difficile de voir quelqu'un en train de couler, en train de se noyer. Lorsqu'on voit un patient qui coule, comme on dit chez nous, on sait donc qu'on peut sauver la vie, et je sais, docteur, que vous avez vous-même tout ce qui pourrait sauver ce patient, et donc il faut que vous le fassiez. Je suis sûre que cette situation ne se reproduira plus, non? Merci beaucoup. Vous êtes formidables, tous. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait venir pour dire ce qu'il ferait différemment? Est-ce que quelqu'un aimerait parler de ce qu'ils aimeraient faire différemment? Pas simplement éviter la situation, ça c'est bon. Quoi d'autre? Ne cessez d'informer le patient. Le médecin, pardon, informez-le continuellement de l'état du patient. Demandez ce que vous devriez faire dans la situation. Quelle est la norme? Qu'est-ce que vous devriez faire? Et n'oubliez pas de toujours remonter la chaîne des commandes. Alors les médecins ont des mauvais jours, les infirmières des mauvais jours, il y a des problèmes personnels qu'on a aussi qui peuvent influencer notre travail. Bon, si j'arrive au travail et que mon mari vient de me demander le divorce, je ne serai pas particulièrement attentive à mon travers, mais je vais venir de toute façon parce que je suis un médecin ou une infirmière. Oui, on a des problèmes, nous aussi, les infirmières et les médecins. Je me suis rendu compte que mon enfant, par exemple, fumait du pot. Ma mère vient d'avoir un diagnostic de cancer et on est déjà déconnecté, on est déjà débranché. Alors, on vient travailler de toute façon, malgré nos problèmes personnels. Et ça, il faut pouvoir en parler. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous feriez d'autre différemment? Autre chose dans votre groupe dont vous avez discuté? Vous poursuivez votre travail. Vous faites ce que vous devez faire. Vous n'arrêtez pas, parce que si c'était votre mère, si c'était votre fils, eh bien, vous continueriez, vous feriez votre travail comme il le faut. Si jamais vous doutez de savoir si vous devriez faire ou pas, la question que vous devez vous poser, c'est quand serait-il si c'était ma mère ou mon enfant? Je vais conclure avec une petite histoire qui porte sur mon fils Tim. Un jour, je passe devant sa chambre et j'ai vu quelque chose que j'avais jamais vu. Son ordinateur était débranché. Tim était devant l'ordinateur, mais il était éteint, l'ordinateur. J'ai dit, Tim, est-ce que tu vas bien? Il a dit, non, je vais pas bien, je ne sens rien. Je dis, comment ça, tu sens rien? Je sais pas, je sens plus rien. Ça s'appelle de l'apathie. Moi, je ne sentirais rien non plus si je passais autant de temps à jouer à des jeux électroniques. On se bat depuis la dernière année à ce sujet-là. Je lui avais donné seulement 2 heures par jour de jeu à l'ordinateur. Et son TBA donc était à 2,6. Il était descendu encore plus bas, à 0, quelque chose. Je savais même pas que ça pouvait descendre si bas. Je lui ai dit, écoute, il faut que, pour avoir des sentiments, il faut que tu sortes et que tu parles avec des gens. Il dit, mais je suis incapable d'arrêter de jouer. Il s'est levé. Et il est allé prendre une douche et je me suis dit, qu'est-ce qu'il a dit là? Il a dit qu'il pouvait pas s'arrêter. Je savais même pas qu'il avait essayé d'arrêter. Je me suis sentie désespérée comme mère monoparentale. J'ai voulu googler son père, je me suis retrouvée sur un site, citations qui s'appliquaient à cette situation-là. J'ai mis une note sur l'écran d'ordinateur de Tim et j'ai dit, va chercher une citation qui est significative pour toi. Et ensuite, je suis allée préparer le repas. Et lors du repas, j'ai dit à Tim, est-ce que tu as lu ces citations que j'avais mises sur ton ordinateur? Est-ce que tu les as mises, ces citations? Est-ce qu'elles voulaient dire quelque chose pour toi? Il dit oui. J'ai aimé surtout celle qui disait, la vie n'est pas une ligne, mais une série consécutive de points. D'accord? Le jour suivant, j'arrive à la maison, j'ai Tim qui est à la porte, complètement mouillé. J'ai dit, Tim, est-ce que ça va? Il dit non. Il dit, tu sais quoi? Si tu dois envoyer un courriel, t'es mieux de l'envoyer du travail parce qu'on n'a plus d'ordinateur. Où est l'ordinateur? T'es où est-ce que t'as mis l'ordinateur? Eh bien, je l'ai lancé de la falaise. Quoi? Je l'ai lancé, en fait, à 300 pieds en bas de ravin. Je lui ai dit, alors pourquoi est-ce que t'es mouillé comme ça? Il m'a regardé et il lui a fallu longtemps pour répondre à ma question. J'ai dit, pourquoi est-ce que t'es mouillé comme ça? Parce que j'étais pas certain d'où il atterrirait. Alors, je suis vite allée au bas du ravin et j'ai noyé l'ordinateur dans la rivière. Je lui ai dit, oh, tu dois avoir très faim. Et il est arrivé dans la cuisine, il s'est assis et il a mangé comme 3 ogres. La vie n'est pas une ligne, mais une série consécutive de points. Parce que tous les points, peut-être le point suivant, peut changer la direction de toute la ligne. Alors, quel est... Où est le point où les relations infirmières-médecins vont s'améliorer? C'est le point où vous aurez la possibilité de rester silencieuse ou de dire ce que vous avez à dire. Merci de votre attention. J'aimerais maintenant... qu'on passe à la période de questions. Alors, venez au micro ou bien levez la main si vous avez une question à poser, un commentaire à faire. Nous allons vous apporter le micro. Nous avons 10 minutes pour une période de questions. Alors, je travaille à St. Mary's dans l'unité cardiaque de cardiologie. J'ai aussi un groupe clinique de McGill que je forme. Et sur notre unité, ce que je trouve, comme l'avais dit plus tôt, on a des rondes avec les médecins, les infirmières, les PTOT. Toutes les disciplines sont là et se rencontrent 2 fois par semaine. Alors, on trouve pas ça très utile de transmettre l'information à tout le monde. Et lorsque on nous dit, vous n'êtes pas seulement une infirmière, mais vous êtes l'infirmière et vous devez soigner le patient et vous devez défendre les droits du patient. Alors, et ça, je transmets ça aux étudiants. Je trouve que ça fonctionne très bien sur notre unité pour ce qui est des relations infirmières-médecins. Mais quelquefois, il y a des médecins qui arrivent et avec lesquels ça fonctionne pas, cette technique. Il s'agit d'essayer de trouver un équilibre entre les rendre conscients de ça, mais pas sans les offenser, sans les vexer. Alors, vous avez un peu abordé la question, mais je me demandais si vous auriez d'autres suggestions à offrir là-dessus, parce que ça fonctionne tellement bien avec certains médecins, mais pas si bien avec d'autres médecins. Et pour ce qui est des membres de l'équipe, oui, ils ont réussi à établir une communication. Avez-vous des suggestions? La meilleure personne pour approcher le médecin, ce sera un autre médecin. Et si vous avez une conversation avec ce modèle-là, bon, j'ai remarqué que 2 médecins procèdent différemment et s'entraînent des résultats différents. Et j'aimerais partager ceci avec vous. Lorsque le médecin fait ceci, on a tel résultat. Et quelquefois, l'autre médecin, donc, fait autre chose et malheureusement, ça ne marche pas. Lorsque vous faites ça, ben voilà le résultat que vous obtenez. Et je ne savais pas si vous saviez que votre comportement était différent de celui de vos pairs, de vos collègues. Et je me demande si vous ne pourriez pas changer votre comportement de sorte que toutes les infirmières pouvaient voir le même résultat chez les patients et puissent avoir confiance en vous. Ce qui manque dans toute la situation, c'est la relation personnelle. Il y a les affaires et il y a ensuite le travail. Quelquefois, on est trop impliqué dans la vie des autres, alors que ce n'est pas de nos affaires. Mais ce dont je me rends compte le plus souvent, c'est qu'on ne se connaît pas assez en tant qu'être humain. Et d'après mon expérience, les gens comme cela, qui embarquent pas, vous ne savez pas vraiment qui ils sont. Le niveau de communication est très superficiel. Et ce n'est pas comme Scott Peck l'a dit, donc on n'arrive pas à pénétrer la façade. Alors, la meilleure chose à faire dans ce temps-là, c'est d'organiser une fête de Noël. Une année, donc, on a ouvert la porte, les médecins se sont rendus dans un coin et les infirmières sont allées dans l'autre coin. Je me suis dit, oh, ça va pas. L'année suivante, on organise un autre party de Noël et j'ai dit, cette fois-ci, on va procéder différemment. J'organise donc une table où il y avait des cocardes et l'infirmière ont mis leur prénom en gros parce que plusieurs des médecins étaient vieux et étaient incapables de lire. Lorsque les médecins sont arrivés, ils ont commencé à mettre leur nom et j'ai dit, il y a personne ici qui ne sait pas qui vous êtes. Nous savons tous qui vous êtes. Écrivez quelque chose d'intéressant à votre sujet. Et ils ont dit quoi? J'ai dit, bon, écrivez quelque chose d'intéressant à votre sujet, AB, autre chose. Et il a écrit l'école où il était allé. J'ai dit, non, docteur, très intéressant, mais vous étiez encore une fois. Il a dit, vous auriez dû, en fait, m'informer que vous alliez procéder comme ça, etc. Et finalement, il a écrit, tueur de baleines. Et je dois vous dire que lorsque cet homme est arrivé dans la pièce et s'est assis tout simplement à la table, c'était comme, par exemple, M. Rogers, le quartier M. Rogers, et 5 infirmières ont dit, qu'est-ce que vous entendez par tueur de baleine? J'ai participé à une partie de chasse à la baleine. Il a raconté ça aux infirmières. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est un médecin qui a écrit Haïti. Tahiti. Alors, j'ai demandé combien d'années, en fait, êtes-vous allé à Tahiti? Eh ben, j'y suis allé 25 ans. Alors, j'y vais pour la 26e fois cette année. Et pourriez-vous m'en raconter plus? Les deux ont commencé une conversation là-dessus. Pouvez-vous imaginer 20 conversations comme celle-là? Il n'y a aucun instrument de recherche qui pourra mesurer le lendemain matin la façon dont ces relations avaient changé, dont nos relations avaient changé. Et tout d'un coup, aborder donc ce sujet-là, en fait, une infirmière, en fait, qui n'aurait jamais pensé à devoir aborder donc un médecin en fait qui avait fini Harvard, dire bon ben écoutez le patient a des douleurs, il faut ajouter de la morphine. Elle a dit écoutez le patient est jeune, je remarque que quand on fait telle ou telle chose en fait son état s'améliore. Mais avant le party, j'aurais pu jamais aborder ce médecin là. Ceci a été crucial, essentiel, parce que les gens ont commencé à entrer en relation à un niveau auquel ils n'entrent jamais en relation, c'est-à-dire comme des êtres humains. Et à mon avis, c'est ça qui fonctionne le mieux. Ça fonctionne pas? Oui, ça fonctionne. Avez-vous une question? Je voulais faire un commentaire là-dessus. En fait, vous avez fait référence au fait d'avoir une discussion amicale entre les médecins, les infirmières, etc. Une chose que je trouve intéressante, c'est que tout d'abord, dans l'un des cours que j'ai pris à McGill, je me souviens pas de quoi on parlait. On parlait de la dynamique entre les infirmières et les médecins. Les infirmières appellent toujours les médecins docteur, docteur un tel, un tel. Alors que les infirmières, en fait, on les appelle par leur prénom. Samantha, Jessica, jamais par leur nom de famille. On n'entend jamais infirmière Gauthier ou Beauregard. Alors ça crée un déséquilibre immédiatement. C'est un excellent commentaire, effectivement. Ça crée un déséquilibre. Autre chose que je trouve intéressante, mon mari, à son travail, il travaille pour une société très connue. Et une chose qu'ils font dans cette entreprise pour éviter cet écart, en fait, hiérarchique, ils s'appellent par leur nom. Tout le monde s'appelle par son nom. En fait, le PDG appelle mon mari Albert. Alors, ils ont un rapport plus personnel qui n'est pas un rapport hiérarchique. Et moi, j'ai été très impressionnée lorsqu'il m'a raconté ça. Alors, j'ai un exemple de ça, parce que j'ai un médecin qui n'était jamais en colère ou énervé ou n'élevait jamais la voix, mais je me sentais très petite quand j'étais près de lui. Je ne savais pas comment le confronter. Alors, un jour, je lui ai dit, « Est-ce que je peux vous parler en privé pendant quelques instants? » Il était complètement choqué. Il s'est rendu au seul endroit donc où on pouvait parler en privé. C'était la salle de lavage. Et je lui ai dit, « Bon, j'aimerais vous parler de quelque chose. » Il était complètement perplexe. Alors, j'ai remarqué que je vous appelais Dr. Daniels, mais vous m'appelez Kathleen. Est-ce que vous pourriez m'appeler, en fait, infirmière Bartholomew, puisque moi, je vous appelle Dr. Daniels? Il a dit, quoi? Je répète, j'aimerais que vous soyez plus personnel avec moi, que vous m'appeliez par mon nom de famille, non pas par mon prénom. Il a dit, bon, d'accord. Ensuite, il s'en va dans l'unité. Et le jour suivant, il revient. Et il veut m'appeler et il dit, appelez-moi Jim. Et personne n'était autour pour être témoin de ceci. Alors, j'ai attendu. Je pense que j'ai attendu 10 minutes tant que le poste d'infirmière n'était pas, en fait, entouré de gens de partout. Jim, voici ce que j'ai à te montrer. Et alors, tous les gens, en fait, étaient surpris. Ils ont dit, comment ça se fait que tu peux l'appeler Jim? Oui, effectivement, c'est important, cette question de nom. Ça, c'est culturel aussi. Parce que moi, j'étais formée à appeler les gens qui sont plus vieux que moi par leur nom de famille. Mais si vous le pouvez, ça sera un égalisateur. C'est un excellent commentaire de pouvoir appeler les gens par leur prénom, les médecins par leur prénom. Allez-y. Lorsque j'ai écouté votre présentation à mi-chemin, je me suis rendu compte que certains des symptômes que vous avez mentionnés, à savoir comment les gens se sentaient, comment les gens réagissaient aux différentes dynamiques, c'était très, très similaire aux expériences qui ont été faites en prison par M. Zimbabwe. Et j'ai été très impressionnée de voir que finalement, la prison et les hôpitaux présentaient les mêmes similarités. Je ne connais pas cette étude, mais je sais que ça porte sur les prisons. Mon hypothèse, c'est que ça a à voir avec le niveau de danger. Et les prisons, c'est un endroit dangereux aussi, tout comme les établissements de soins de santé. Pour ce qui est des conflits, est-ce qu'on a plus de conflits dans les hôpitaux que dans d'autres entreprises? Oui, certainement 10 à 15 de plus. Et c'est aussi plus le cas au Canada. Il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites, mais certaines études prouvent que c'est ainsi le cas plus au Canada qu'aux États-Unis. Parce qu'il y a une norme culturelle qui veut que nous soyons beaucoup plus polis. Alors, vous allez fréquemment à des réunions et quelqu'un vous dit quelque chose et vous pensez que c'est simplement ridicule après avoir quitté la réunion et après que les portes d'ascenseur se soient fermées. Vous dites, ah non, ça c'est ridicule, je peux pas croire qu'il ou qu'elle a dit ça. Alors, vous avez plus de conversations dans les ascenseurs que nous parce qu'en fait, vous n'évacuez pas, vous dites pas ce que vous pensez. Je dis pas que c'est tout à fait similaire aux prisons, mais c'est similaire à des groupes d'individus qui, lorsqu'ils travaillent ensemble, présentent tous cette même dynamique. Bon, je pense à des régions éloignées au Canada où les relations, bon, lorsque, en fait, si j'avais su que j'aurais à travailler avec toi 40 ans, j'aurais peut-être procédé autrement. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et je pense que la prise. En prison, vous voyez vous voyez le danger parce que les prisonniers sont derrière les barreaux. Vous avez des gardes qui sont armés, mais dans les hôpitaux, on voit pas ça. Il n'y a pas de barreaux et puis il n'y a pas de gardes armés. Alors merci beaucoup. En fait, je connaissais pas cette recherche. Alors ce sera la dernière question parce que ensuite il faudra conclure. Ce n'est pas une question. Je m'appelle Chantal. Je travaille en radiologie interventionnelle. C'est plutôt un commentaire ou une réflexion qui a été faite à mon unité par un type qui travaille avec nous. Vous avez dit que environ 30 % des patients ne savent même pas la procédure qu'ils doivent faire. Alors moi. Alors, ah oui, les gens ne savent pas quelle sera la procédure qu'ils devront subir. Je dois expliquer toute la procédure à certains patients parce qu'ils ne savent absolument pas ce qu'on va lui refaire. Le type avait travaillé à un hôpital pédiatrique en radiologie. Il a dit, tu verras jamais un patient arriver avec un enfant sans le consentement d'un parent. Le parent ne permettrait jamais à l'enfant d'aller là, en fait, sans savoir ce qui se passerait. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça avec les adultes? Je continue à essayer de voir comment on pourrait améliorer la communication avec les patients. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans un hôpital pédiatrique, l'enfant n'aurait pas le droit de quitter l'hôpital tant que le médecin n'aurait pas eu le consentement, en fait, des parents dans la pièce même. Alors, ça se passe pas avec les adultes et je vois pas pourquoi. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que l'information que je vous ai transmise a été utile et vous sera utile. Ça a été un honneur de prendre la parole ici.